Les questions du public, le nombre des questions m'a fait prendre conscience qu'il y avait sûrement une faille. Je voulais avoir ton avis. Est-ce qu'il n'y a pas un problème justement d'éducation à la jurisprudence des transactions? Est-ce qu'on ne devrait pas instaurer ça dans les écoles primaires et secondaires? Parce que des fois, j'ai des questions, je me dis, mais nos frères et sœurs, ils sont complètement déconnectés de la vision islamique de l'économie.
En fait, pas plus tard qu'il y a 2 jours, j'étais contacté par un ami en France qui me disait qu'en travaillant sur une formation qu'on aimerait lancer d'ailleurs bientôt, Inch'Allah, sur l'économie islamique, il s'est rendu compte que certains pensaient même que l'islam ne parlait pas de transactions, parlait pas de jurisprudence des transactions, qu'il n'y a pas de règles, de normes dans la finance islamique, dans le fiqh al-mu'amalat, etc. Parce que justement, on en parlait tout à l'heure après la khutbah de Jumu'ah, les ouvrages de fiqh commencent bien entendu, à juste titre d'ailleurs, par Tahara, puis Salah, etc. À juste titre,
Ibadat.
voilà, exactement.
Et on termine
Mais
par.
la question c'est, est-ce que tout le monde va jusqu'au bout des livres
Non.
de jurisprudence? Souvent on commence une silsila de Doros, on est très motivé au début. Après peut-être 20 ou 30%
On
du livre,
s'arrête
il
au
y a de moins en
mariage.
moins de personnes, etc. Et donc, ouais, donc c'est. Mais effectivement, ça c'est d'une part. D'une autre part, il y a une concurrence féroce des institutions usuraires qui sont maintenant à la conquête des collégiens et des lycéens, comme l'ont été les cigarettiers à
Dans
une
les années.
époque, parce que c'est des âmes faciles, sensibles et facilement manipulables. Et donc, on essaie de leur faire ce qu'on appelle l'éducation financière. Comment s'endetter, mais pas trop. Comment bien gérer ses finances domestiques, etc. Tout ça, ça a l'air sympathique. Bon, encore que la dette, c'est un gros sujet en islam. Mais en réalité, il faudrait que les personnes, surtout celles qui ont un cursus économique, mais pas que, parce que tout le monde sera amené à faire des transactions dans sa vie, et comme le dit l'imam Bukhari dans son Sahih, Babul Ilm qabla l'amal. Donc on doit d'abord savoir quel est le jugement de quelque chose
Avant
avant
d'agir.
de faire cette transaction. Et bien quand on est par exemple médecin, rien à voir avec l'économie, enfin avec le fiqh al-mu'amalat, mais à un moment on va devoir ouvrir un cabinet. Peut-être qu'on aura besoin d'un financement, ou d'un associé, ou d'un fonds d'investissement, ou d'acheter du matériel. Et là commence faire al-mu'amalat. Et c'est là qu'il faut commencer à se documenter, pas après. Il y en a beaucoup qui viennent et me disent j'ai fait un crédit, j'ai fait une telle et telle transaction, j'ai fait telle association, qu'est-ce que je fais maintenant? Ça aurait été intéressant de demander au début.
Bien avant, ouais.
Voilà.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأحبابه وأتباعه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخ فيدال شيخ زامي شيخ بوبليك داريفتون c'est un plaisir pour nous pour moi de vous retrouver pour la saison 2 des lives et des podcasts داريفتون. Donc je vous rappelle, cette saison-ci, comme la saison passée, Inch'Allah, on aura chaque mardi ou chaque deux mardis dans le mois un live avec toute l'équipe d'Arifton. Donc je pense à notre frère Othman, notre frère Jad, notre frère Omar Farid et moi-même Inch'Allah. Et à côté de ces fameux lives, j'aurai le plaisir de continuer à animer les one-to-one. Donc je recevrai un invité avec lequel on passera quelques moments, quelques heures peut-être même, et on découvrira le parcours de vie de l'invité, et ensuite surtout, on discutera de la spécialité de cet invité-là. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir, j'ai l'honneur, je suis ravi de retrouver un invité qui commence à prendre ses marques dans les studios d'Arifton. C'est la deuxième fois qu'il nous rend visite ici dans le studio. J'ai l'honneur de vous présenter notre frère, le cheikh, le docteur Mohamed Talal Lahlou. Sidi Mohamed, salam alaykoum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
Comment
Merci
vas-tu?
pour l'invitation. Très très bien.
Ça fait plaisir de t'avoir, Sidi Mohamed.
Allah yubarakfik.
On a pensé répondre à la demande suite à la publication du premier podcast, t'avoir pour pouvoir poser toutes les questions possibles imaginables, en rapport bien sûr avec l'économie et la finance islamique. Donc on est là aujourd'hui, bi'idnillahi ta'ala, pour répondre aux questions de notre public. J'ai reçu énormément de questions à Sidi Mohamed. On va encore nous envoyer des questions en direct. Juste une remarque à nos frères et à nos sœurs qui nous suivent en direct. Pour vos questions, nous ne choisirons que les questions en rapport, bien sûr, avec le sujet qui est la finance et l'économie islamique, premièrement. Et deuxièmement, vous devez comprendre qu'on ne peut pas répondre à 500 questions, sauf si Sidi Mohamed il est libre jusqu'à demain matin, qu'on passe la nuit à répondre à toutes vos questions. Donc on va essayer de prioriser, de choisir les questions qui nous semblent les plus pertinentes et bénéfiques, bi'idnillahi ta'ala. Ceux qui prennent le live en cours, assurez-vous qu'on n'a pas déjà répondu à votre question en revoyant le replay. Barakallahu fikum. Sidi Mohamed, ala barakatillah, on peut Bismillah. Commencer. Alors je rappelle Sidi Mohamed, je rappelle à notre public, tu es, mashallah, tu viens du Maroc bien sûr, tu es docteur en sciences islamiques, tu es en sciences économiques, tu as une formation en sciences islamiques, docteur donc en sciences économiques, tu es enseignant, tu es consultant, tu es certificateur Sharia Board, tu es en plus de cela auteur, tu écris, on en parlera dans quelques instants. Est-ce que tu peux, en quelques minutes, très court, on ne va pas refaire ce qu'on a fait la fois passée, te présenter brièvement à notre public, Barakallahu fik.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله écoute tu as très très bien fait le tour je suis toujours je me considère comme étant talib ilm je suis chercheur je me considère comme étant un chercheur et donc il y a beaucoup de sujets qui touchent à l'économie islamique qui méritent encore de la recherche bien sûr à côté du travail tout ce qui est formation conseil en investissement. On fait toujours de la recherche, on encadre des étudiants de master, de doctorat dans ce domaine-là. Et c'est un domaine qui a besoin de pas mal de recherche, bien entendu. Donc, pour résumer, on peut dire qu'on fait les choses comme ça.
Une de tes casquettes, Sidi Mohamed, c'est que tu es consultant ou plutôt certificateur Sharia Board. Ça consiste en quoi, ça aussi? Je voulais déjà te poser la question la fois passée.
La certification Sharia Board, c'est tout simplement le fait de pouvoir accompagner une entreprise qui fait des transactions à vérifier que ces contrats, ces transactions, ces relations sont conformes aux normes de la OIFI. AOIFI qui est un organisme qui veut dire, c'est un acronyme, Accounting and Auditing Organization for Islamic Finance Institutions, qui est le plus grand organisme certificateur actuellement dans le monde. De la finance islamique et donc ça permet de vérifier que les normes de cette entreprise ou ces transactions sont conformes aux normes émises par la OIFI qui sont souvent mises à jour par rapport aux évolutions actuelles. Donc c'est l'objectif justement de ces accompagnements.
Et un particulier peut faire appel à un certificateur Sharia Board. Imaginons que j'ai un contrat d'achat d'un véhicule, il y a tout un montage qui doit se faire. Est-ce que moi je peux entrer en contact avec Sidi Mohamed Talal pour lui présenter et lui demander son aval?
C'est possible. D'une manière générale, avec les particuliers, c'est des choses qui sont assez simples. Donc, en général, on essaie de faire ça en 5-10 minutes gratuitement. Mais par contre, quand ce sont des contrats importants qui nécessitent beaucoup de recherche, de travail, de vérification et de regroupement des informations, là, effectivement, ça requiert des missions d'accompagnement un peu plus longues. Donc, pour les particuliers, en général, c'est des choses sur lesquelles les réponses sont déjà assez prête, toute faite d'ailleurs, comme on verra dans les réponses d'aujourd'hui, je pense.
Disponible dans certaines de tes conférences ou de tes interventions.
Souvent.
Barakallahu fik, Sidi Mohamed, l'année passée, donc le live qu'on avait fait ensemble plus tôt, on avait présenté un de tes livres qui était La crise parfaite.
Exact.
Aujourd'hui,
c'est le deuxième.
Aujourd'hui, je voudrais présenter ben justement le premier, l'intelligence économique. Tu peux nous résumer en quelques mots?
Oui, c'est un sujet qui concerne en général les grandes entreprises, le fait de pouvoir recouper. C'est un peu le parallèle éthique et légal de l'espionnage industriel. L'espionnage industriel, ça consiste à prendre l'information chez la concurrence de manière illégale, illicite. Pour l'intelligence économique, c'est son corollaire légal et donc c'est un petit peu l'art ou la science de rassembler comment rassembler les informations via les différents canaux et comment soi-même ne pas être victime d'espionnage industriel ou d'intelligence économique offensive. Et donc ça permet aux entreprises d'éviter justement la fuite d'informations sensibles et de récupérer de l'information sensible. Maintenant, ça, c'est les grandes entreprises, elles ont des budgets pour ça. Mais la question, c'était pour les tout petits qui ont des innovations, des choses intéressantes à protéger, etc. Comment ils font? Eh bien, c'est l'objet du livre. C'est adressé aux entrepreneurs, aux porteurs de projets, aux particuliers qui veulent un petit peu prendre une longueur d'avance dans le domaine dans lequel ils sont.
Cette stratégie pratique pour affronter la concurrence.
Exact.
Donc le livre, et là je vous encourage à vous le procurer, celui-ci et La crise parfaite est disponible à Bruxelles, en Belgique, à la librairie Risala, qui est très connue, à Paris et chez notre frère Thomas Sibyl, chez El Beyina. Donc les deux livres sont disponibles dans ces deux librairies-là, donc à Bruxelles et à Paris. Et bientôt un troisième livre, c'est des Mohamed. C'est en cours ?
C'est en réflexion.
C'est en réflexion. Bah, c'est la première étape avant
effectivement,
le passage à l'action.
Effectivement.
Khair, Sidi Mohamed, je voudrais aussi te poser le cadre de notre soirée ensemble, notre assise. Avant de commencer à te poser les questions de nos auditeurs, je voudrais que tu nous rappelles un peu ce que c'est que l'économie, la finance islamique. Toi, tu l'appelles l'économie éthique, l'économie humaine. Et en quoi est-ce qu'elle est différente de l'économie que certains appellent conventionnelle, et toi tu dis qu'elle n'est pas conventionnelle du tout, elle est non conventionnelle, elle est brute, elle est agressive, elle est injuste, elle est inhumaine. Quelle est la différence entre ces deux économies-là, les gros points pour qu'on puisse, le public puisse voir de quoi est-ce qu'on parle lorsqu'on parle d'économie et de finance islamique?
Bah, tout simplement, on va faire plaisir aux gens qui connaissent la finance islamique et l'économie islamique de loin. Bon, déjà, la finance islamique, c'est une sous-partie de l'économie islamique. Donc moi je préfère parler de l'économie islamique dans le sens où la finance islamique ce sont des choses plutôt techniques et c'est une manière d'appliquer une vision qui est déjà là. Mais d'abord il faut la comprendre, la vision. Pourquoi on a besoin de cette économie islamique? Bien tout simplement parce que dans l'économie telle qu'on la connaît actuellement, telle qu'elle est enseignée dans les écoles, dans les universités, avec des programmes totalement eurocentrés, et eurocentrique, eh bien c'est une économie qui est basée sur le profit et qui a comme unique base et comme unique objectif le matériel. Donc on mesure l'efficacité par le matériel. Et ce matériel se caractérise par le plaisir, l'utilité et par le profit. Ce qui n'est pas le cas de l'économie islamique. Et donc ce matériel, au début, ça a permis de prendre une dynamique, mais aujourd'hui, on se retrouve dans une sorte de circuit infernal, de machine infernale qui ne s'arrête pas et qui va plus vite que l'humanité, notamment dans son volet de l'endettement. Aujourd'hui, quand on voit la dette d'un certain nombre de pays européens, des États-Unis, etc., les chiffres explosent. Et les taux d'intérêt aussi explosent. Ça implique qu'on doit toujours travailler plus, produire plus, etc. On en avait parlé la fois précédente. Ouais. Eh bien, c'est là où l'économie islamique est différente. C'est-à-dire qu'on n'a pas un vecteur fondamental de cette dynamique inhumaine qui est l'intérêt. Ouais. Bien entendu, on a bien beaucoup d'autres choses qui sont dans le cœur de l'économie islamique, telles que le warf, la zakat, le partage des profits et des pertes, et un certain nombre de choses qui font que on parle plus d'alternative que de complémentarité, parce qu'il y a une différence dans le fond, qu'il y a une différence de vision. On ne se limite pas au matériel, l'humain et le spirituel sont les bases de l'équation de l'économie islamique.
Et cette fameuse économie non conventionnelle, l'économie capitaliste, usuraire, est-ce qu'on peut la réformer ou en réalité il faut entièrement la mettre de côté et venir avec El Badil, l'alternative, qui est ce qui existait bien avant cette économie islamique?
À partir du moment où, avec la pensée de la Renaissance qui est devenue humano-centrée, et qui a mis le divin en dehors de l'équation commerciale, économique, etc., eh bien, il est difficile de ne pas s'étonner de cette fin, là où on est arrivé, c'est-à-dire une civilisation qui est de plus en plus atomisée, disloquée, centrée, focalisée sur le matériel. C'est quelque chose de tout à fait normal, car tout ce qui n'est pas matériel a été marginalisé. Et donc, la réformer, ça serait lui rappeler qu'il y a un autre volet dans la dimension économique qui représente l'humain, c'est-à-dire le corps et l'âme. Si on ne garde de l'humain que le corps, eh bien, il ressemblera de plus en plus au monde animal, ouais, dans lequel c'est le corps qui domine.
Les plaisirs et les désirs.
Exactement.
Les fondements de cette économie, sur quoi reposent les piliers de l'économie islamique? Donc, on avait parlé de justice.
Ouais. On a parlé d'abord, on parle du fait que l'orientation principale des acteurs, c'est une orientation pour satisfaire leur créateur, c'est-à-dire l'uboudiya, donc être des humains accomplis dans le sens que nous a donné Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc à partir de là, il y a une dimension verticale, d'abord, prioritaire, et ensuite il y a une dimension horizontale. Et donc à partir de là, on est dans une optique de wala tanafasu, mais on est dans une optique de aussi i'marul ard, dans une optique de d'entraide, dans une optique de redistribution, zakat, dans une optique de pérennité de la solidarité, le waqf. Et donc ça, ce sont un certain nombre de composantes de l'économie islamique. Dans le volet, on a le tout ce qui est zakaful, etc. Et on a aussi pas mal de dynamiques qui sont des dynamiques plutôt théoriques. Je ne sais pas, je ne pense pas qu'elles intéressent le public, mais ce sont des dynamiques qui sont là pour montrer que un certain nombre de théories économiques qui ont été théorisées en Occident l'ont été bien avant dans chez les chercheurs musulmans, notamment Abu Yusuf, Mohamed ibn Hassan Shaybani, Al-Ghazali, Ibn Taymiyyah, Ibn Khaldun, Al-Maqrizi et d'autres. Et donc ça, c'est le volet théorique, c'est le volet fondamental qui montre qu'en fait, cette économie a des racines bien plus ancrées qu'on ne le pense.
Barakallahu fik, Sidi Mohamed. Donc si je comprends bien, l'économie conventionnelle, l'objectif premier, c'est le profit. L'économie islamique humaine dans laquelle il y a la miséricorde, l'objectif premier vertical, c'est de plaire à son Seigneur et de chercher la satisfaction d'Allah. On est d'accord là-dessus.
Exact.
Et ensuite, c'est quoi? C'est d'être au service de l'humain à travers la redistribution, takafoul, ainsi de suite.
Exactement. Tout cela, bien entendu, ça n'implique pas qu'il n'y a pas d'équation d'équilibre général dans la macroéconomie, qu'il n'y a pas de mesure du comportement du consommateur, qu'il n'y a pas de mesure de la redistribution, de l'optimisation de la distribution des ressources. Tout cela, ça existe dans l'économie islamique. Mais le matériel n'est pas l'objectif unique de l'économie islamique. Et donc, dans cette économie islamique, certains diront « mais ça, ce n'est pas scientifique », parce que justement, ils réduisent la science également à ce qui est matériel seulement. Et ça, c'est une erreur aussi.
On a parlé des piliers de l'économie islamique. Quels sont justement les piliers de l'économie conventionnelle qui sont totalement rejetés par l'économie islamique? Riba, quoi d'autre, Assi Mohamed?
On a d'abord le muharamat fil uqud ma'roufa, c'est-à-dire on a le riba, ensuite on a le gharar, et le maïsir et akl amwal nas bil batil. Donc le riba, c'est tout ce qui est prêt qui entraîne des intérêts, plus le riba al-fadl tel que l'ont expliqué les savants. Et donc tout ce qui concerne à, tout ce qui consiste à commercer avec le temps, en fait, gagner de l'argent avec le temps, sans aucune forme de prise de risque du capital
qui travaille.
Ou de travail. D'accord. Donc ça, c'est le riba pour l'expliquer sous son angle un petit peu économique. On ne va pas rentrer dans l'explication jurisprudentielle, elle est très disponible pour tous ceux qui veulent la chercher. Dans le gharar, c'est tout ce qui est incertitude dans les contrats. Parce que quand on fait du commerce en islam, c'est bay' ma'loum bi ma'loum. C'est donc le prix est connu et la marchandise, la contrepartie est connue. Quand on fait entrer un élément d'aléa, eh bien, ça biaise. Et quand ça biaise, ça entraîne des problèmes. Ça entraîne plus de bureaucratie, plus d'assurance, plus d'avocats, plus de poursuites, plus de problèmes. Et tout ça, c'est à éviter. À éviter en amont. C'est pour ça qu'aujourd'hui, dans le monde actuel, on a de plus en plus de lois, de plus en plus de procédures et de bureaucratie. Ça fait perdre énormément d'argent à l'économie.
Et de temps.
Et de temps. Pourtant, si on avait une éducation éthique en amont, morale, eh bien, beaucoup de ces choses seraient évitées à la base dans les transactions. Pourquoi? Parce qu'on aurait une morale qui chapeaute, une morale non matérielle, mais qui est là, qui chapeaute les relations humaines. Cette morale aurait pu faire économiser beaucoup pour les entrepreneurs, pour les créateurs, pour les particuliers, les salariés et les entreprises. Aujourd'hui, cette dimension morale, justement, elle n'est pas là. On n'a que le matériel et les valeurs matérielles. Donc, on rattrape par le droit. Mais le droit n'a pas vocation à être éthique. Comme le disent un certain nombre d'experts dans le domaine juridique, le droit c'est une chose, l'éthique c'est une autre. Donc on peut jouer avec l'éthique dans le droit. On peut manier l'éthique avec le droit. On peut même utiliser le droit pour être à l'encontre de l'éthique. Comme par exemple, maintenant, quand un certain nombre de pays imposent leur veto aux Nations Unies pour arrêter un génocide, c'est légal.
Le droit contre l'éthique.
Mais ce n'est pas éthique.
Donc on a dit, parmi les piliers que rejettent la finance et l'économie islamique, riba, el-gharar, on a parlé de l'maïsir, la spéculation. En quoi la spéculation ?
Mais c'est surtout le jeu de hasard quand on gagne sur la base du hasard. Donc la spéculation, c'est un grand terme, c'est l'objet de ma thèse de doctorat. D'ailleurs, si les gens sont intéressés, elle est publique, en ligne et gratuite. Et donc, elle fait 495 pages, donc il faut avoir un petit peu de courage. Mais c'est quand même un sujet qui mérite, pour les chercheurs, pour les académiciens. Juste pour définir la spéculation, il faut à peu près une bonne cinquantaine de pages. Pourquoi ? Parce que le concept est très, très poreux. Et donc, c'est un concept qui est utilisé à tout va. La spéculation, il peut y avoir du maïsir dans la spéculation, mais on peut avoir de la spéculation qui n'est pas du maïsir, comme par exemple acheter un bien immobilier dans la perspective parce qu'on pense que le prix va augmenter. C'est de la spéculation. Mais si les clauses et les conditions du contrat sont là, il est très difficile de dire que c'est haram. Oui. Par contre, tout ce qui est spéculation sur la base de produits dérivés, par exemple, c'est illicite parce que le sous-jacent est illicite. Et donc, la spéculation, c'est un concept poreux. Mais généralement, quand on dit spéculer, on revient souvent à la définition de Nicolas Kaldor, c'est-à-dire l'achat d'un objet, non pas en vue de l'utiliser, le transformer ou le transporter, mais juste dans l'intention de la plus-value de capital. Et c'est justement aujourd'hui ce qui domine les bourses actuelles. Et ça aussi, ça fait perdre beaucoup d'argent à l'économie et à la société.
Et ça fait exploser les prix des denrées alimentaires, des matières premières.
Oui, on a des exemples très tangibles. Quand Goldman Sachs, première grande banque d'affaires dans le monde, trouvait que les niches d'investissement et de spéculation étaient assez saturées, il restait la niche de l'alimentaire. Ils sont entrés dans la niche de l'alimentaire. Donc, quand on a un pool de produits alimentaires et un afflux de capitaux, forcément, les prix augmentent. Ah, il y aura plus de demandes. Mais ce n'est pas de la demande réelle, c'est de la demande spéculative. Donc, on l'achète pour revendre. Et donc, à partir de là, l'augmentation de ces prix a entraîné des famines en Afrique et en Asie. Et elle a entraîné des dizaines de milliers de morts. Donc, ça, c'est du palpable. Mais ça ne se voit pas. Ça se mesure. Mais on n'entend pas ça dans les informations du 21h parce que ce n'est pas sensationnel.
Ça n'empêche pas de dormir.
C'est ça le problème. Mais quand on creuse dans le monde de la bourse et de la spéculation, c'était l'objet de mon doctorat justement, et c'est l'objet du deuxième livre, La crise parfaite, on trouve qu'il y a des énormités qui sont totalement incompatibles avec l'économie islamique.
Ok, Barakallahu fik Sidi Mohamed. Il y a encore une question, ça c'est mes questions personnelles. Comment tu expliques, toi qui as étudié le sujet, comment est-ce que cette économie non conventionnelle, usuraire, brutale, injuste, et on peut remettre 10 synonymes après, est arrivée à s'imposer et à prendre la place d'une économie éthique, humaine, juste, ainsi de suite?
À partir du moment où on a une institution, une institution qui a la possibilité de gagner avec le temps, mécaniquement, sans faire d'effort. Et que cette institution, au fil des générations, est toujours de plus en plus riche. Pourquoi ? Parce que de toute façon, dans sa transaction, il n'y a que le gain. Soit on gagne, soit on reporte la dette avec plus d'intérêt pour gagner plus. Cette institution est devenue maîtresse des transactions financières dans le monde aujourd'hui, qui maîtrise les transactions monétaires, financières, le système monétaire est basé sur ces institutions, eh bien, à partir de là, force est de constater que cette institution impose sa vision matérialiste. Parce qu'il ne faut pas oublier que le premier lobby à Washington, ce n'est pas le lobby pharmaceutique, ce n'est pas le lobby de l'armement, ce n'est pas... on peut penser à 36 000 lobbies, c'est le lobby financier. Et donc, ce lobby est là pour faire en sorte que les lois soient favorables. On voit aujourd'hui un certain nombre de lobbies de certaines communautés aux États-Unis, comment ils font que les États-Unis deviennent une poupée dans sa politique étrangère pour leurs intérêts communautaristes. Eh bien, imaginez les financiers usés et abusés de ce lobbying avec des moyens énormément plus importants que ceux de cette communauté. Parce que le monde de la finance ne se limite pas à une communauté. Et donc à partir de là, ce lobbying est là pour toujours avoir un cadre international, durable, mondialisé. On peut par exemple avoir une usine, un projet. On peut avoir un projet qui échoue, une tempête qui vient détruire le projet ou un tremblement de terre. Il est possible que le projet soit réduit à néant, en cendres, mais l'hypothèque de la dette sur le projet ne disparaît jamais. Elle est là. C'est un droit qui va rester. C'est ce qui fait que cette institution qui est l'usure, elle traverse le temps et les contrées. Et c'est cette institution qui a besoin d'un droit international harmonisé, mondialisé, qui est focalisé d'abord sur les droits financiers, ensuite sur les droits humains. Par exemple, aujourd'hui, on a le libre-échange dans un certain nombre de produits et un certain nombre de capitaux. Par contre, pour les humains, c'est compliqué.
Catastrophe.
On ne peut pas transiter d'un pays à l'autre de manière aussi facile que le font les produits et les flux de capitaux.
Parce que l'intérêt et le profit est toujours...
Et les Panama Papers ont montré que ça transite très très vite parfois.
Khair Sidi Mohamed, encore une question dans la thématique. Ben justement, comment l'économie islamique fait face à ces défis-là? Le défi, elle doit trouver sa place. Elle doit arriver à s'imposer, alors que le système actuel, c'est un système usuraire, un système capitaliste. Comment ça avance entre il y a 10 ans et aujourd'hui? Est-ce que tu as l'impression qu'on est en chemin et qu'on est dans le bon chemin? Est-ce que tu penses que c'est peine perdue? Et ma deuxième question par rapport à cela, les pays musulmans qui ont instauré une certaine économie islamique dans le pays, est-ce que justement cette éthique est de retour? Est-ce que ça règle des soucis ou en réalité on se rend compte qu'on n'y arrive pas? Parce qu'il y a beaucoup de critiques par rapport à l'économie islamique et on considère qu'on l'accuse d'être juste de l'économie conventionnelle maquillée.
Ces critiques se focalisent surtout sur la finance islamique. C'est pour ça que moi je préfère utiliser le mot économie, parce que justement la finance c'est un ensemble de techniques. Et beaucoup de personnes qui sont entrées dans la finance islamique sont entrées dans un intérêt purement pécuniaire et viennent du monde capitaliste et n'ont pas la vision de l'économie islamique. Donc ils ont pris un ensemble de techniques et ils se sont dit, bon, on a déjà nos banques qui font ça, on va ajouter ces produits.
Toujours à la recherche de profit.
Toujours à la recherche de profit, avec la vision de la banque usuraire. Et donc à partir de là, on a tout un pan de la finance islamique qui a été phagocyté par le capitalisme actuel. Mais heureusement, pas totalement. Dans la mesure où, de toute façon, quand on étudie la finance islamique, on est obligé de toucher les textes de l'islam, les textes fondateurs du Coran, de la Sunna, etc. Et ces textes, qu'on le veuille ou pas, ils ont une certaine influence positive, une certaine influence éthique. Et donc, à partir de là, dans le monde de l'économie islamique et de la finance islamique, on a des gens qui sont toujours là, sans cesse, pour rappeler, attention, le chemin qui a été pris par certaines ce qu'on appelle banque islamique, n'est pas le chemin qui concorde avec l'esprit de l'économie islamique. Donc ce n'est pas peine perdue, sinon je ne serais pas venu. Et donc on a quand même un certain nombre d'institutions qui essayent tant bien que mal. On a par exemple Cheikh Saleh Kamel, qui est le directeur fondateur de l'institution Al-Baraka, Allah rahmo. C'est l'une des plus grandes banques islamiques dans le monde. Et à la fin de sa vie, il disait que bon, on a un certain nombre de produits qui ne sont pas conformes avec la vision de la finance islamique. On a fait des erreurs ici et là. Et donc, il y a de la conscience. Et l'une des premières étapes pour améliorer quelque chose, c'est prendre conscience déjà qu'on fait quelque chose de pas bon. Après, si on n'a même pas conscience du fait qu'on est dans la mauvaise voie, là, les perspectives de changement, elles sont quasi nulles. Donc, ce service est toujours en évolution. On a des croissances à deux chiffres dans ce monde-là. Donc ça évolue à grande vitesse.
Et les pays les plus en avance dans la finance islamique aujourd'hui, c'est qui? La Malaisie
La Malaisie avec beaucoup de laxisme.
Beaucoup de laxisme, beaucoup de laisser-aller sur tout ce qui est chez à bord.
Pas mal. Il y a certaines choses sur lesquelles ils ont fait pas mal de progrès, comme par exemple Béléina, qu'ils ont petit à petit marginalisé. Et un certain nombre d'autres pays, dans les pays du Golfe, dans les pays du Maghreb un peu, beaucoup moins. En Afrique, ça commence à se développer, Afrique subsaharienne. Et donc, ça avance. Il ne faut pas oublier qu'on est en train de parler d'un secteur qui a peut-être 40 ans d'existence face à un secteur qui en a 400.
Mais est-ce qu'ils regagnent en compétitivité ces pays-là qui réinstaurent de l'économie et de la finance islamique?
Alors,
est-ce que c'est bénéfique pour eux?
Concernant la compétitivité, ce qu'il faut savoir, c'est que l'économie islamique, quand elle est appliquée, elle permet d'avoir un petit peu plus de justice dans les transactions et d'équilibre entre les parties prenantes des transactions, les stakeholders. Donc, quand, par exemple, on a eu la crise de 2008, eh bien, il faut savoir que les institutions financières islamiques s'en sont sorties beaucoup mieux que les institutions usuraires, pour des raisons évidentes de levier, qu'on appelle en anglais « leverage yeah. ».
Barakallahu fika Sidi Mohamed, on va passer aux questions du public. Il y en a énormément, et les questions du public, le nombre des questions m'a fait prendre conscience qu'il y avait sûrement une faille. Je voulais avoir ton avis. Est-ce qu'il n'y a pas un problème justement d'éducation à la jurisprudence des transactions? Est-ce qu'on ne devrait pas instaurer ça dans les écoles primaires et secondaires? Parce que des fois j'ai des questions, je me dis mais nos frères et sœurs, ils sont complètement déconnectés de la vision islamique de l'économie.
En fait, pas plus tard qu'il y a 2 jours, j'étais contacté par un ami en France qui me disait qu'en travaillant sur une formation qu'on aimerait lancer d'ailleurs bientôt, Inch'Allah, sur l'économie islamique, il s'est rendu compte que certains pensaient même que l'islam ne parlait pas de transactions, ne parlait pas de jurisprudence des transactions, qu'il n'y a pas de règles, de normes dans la finance islamique, dans le fiqh al-mu'amalat, etc. Parce que justement, on en parlait tout à l'heure après la khutbah du Jumu'ah, les ouvrages de fiqh commencent bien entendu, à juste titre d'ailleurs, par Tahara, puis Salah, etc. À juste titre, voilà exactement. Mais la question c'est, est-ce que tout le monde va jusqu'au bout des non. livres de jurisprudence? Souvent on commence une silsila de Doros. Très motivé au début, après peut-être 20 ou 30% du livre, il y a de moins en moins de personnes, etc. Et donc, c'est... Mais effectivement, ça c'est d'une part. D'une autre part, il y a une concurrence féroce des institutions usuraires qui sont maintenant à la conquête des collégiens et des lycéens, comme l'ont été les cigarettiers à une époque, parce que c'est des âmes faciles, sensibles et facilement manipulables. Et donc, on essaie de leur faire ce qu'on appelle l'éducation financière. Comment s'endetter, mais pas trop. Comment bien gérer ses finances domestiques, etc. Tout ça, ça a l'air sympathique. Bon, encore que la dette, c'est un gros sujet en islam. Mais en réalité, il faudrait que les personnes, surtout celles qui ont un cursus économique, mais pas que, parce que tout le monde sera amené à faire des transactions dans sa vie, et comme le dit l'imam Bukhari dans son Sahih Babul Ilm, qabla l'amal. Donc on doit d'abord savoir quel est le jugement de quelque chose avant de faire cette transaction. Et bien quand on est par exemple médecin, rien à voir avec l'économie, enfin avec le fiqh al-mu'amalat, mais à un moment on va devoir ouvrir un cabinet. Peut-être qu'on aura besoin d'un financement, ou d'un associé, ou d'un fonds d'investissement, ou d'acheter du matériel. Et là commence faire le mu'amalat. Et c'est là qu'il faut commencer à se documenter, pas après. Il y en a beaucoup qui viennent et me disent « J'ai fait un crédit, j'ai fait une telle et telle transaction, j'ai fait telle association, qu'est-ce que je fais maintenant ?» Ça aurait été intéressant de demander au début.
Bien avant, oui.
Voilà.
C'est Omar ibn Khattab, radiallahu anhu, tu me corrigeras, c'est des Mohammed qui... Il se balade dans un marché et puis il rencontre un commerçant qui ne maîtrise pas les règles de la vente du marché et il le chasse du marché. Il lui demande d'aller se former.
Il interdisait aux gens qui ne comprennent pas le béaba de la jurisprudence des transactions de commercer dans le marché. Et on rapporte même que Ali ibn Abi Talib disait que cette personne qui ne connaît pas les transactions va de toute façon se plonger dans le riba, qu'il le veuille ou pas. Ouais.
Barakallahu fika Sidi Mohamed, on va passer à un premier thème, une série de questions qui traite du thème de la banque classique et riba, l'usure. Est-ce que tu peux nous donner, tu en as parlé en introduction, nous rappeler juste ce que c'est que riba? Parce que nos frères et sœurs, très souvent, ils mélangent riba, crédit, ils utilisent des mots en fait qui veulent dire la même chose mais qui ne veulent pas dire la même chose et donc ils sont un peu perdus. Riba, c'est quoi?
Bon, dans la langue d'abord, c'est le surplus, le plus, ce qui grossit, ce qui augmente. Et dans l'istilah, dans la jurisprudence, c'est ziyadatun mahsousa fi amwalin mahsousa. Donc c'est un surplus dans une certaine catégorie de biens et de monnaie. Et donc aujourd'hui, les balfadl, bon, ceux qui sont de la culture, qui veulent de la culture générale peuvent aller s'en renseigner, mais ce n'est plus très très courant. Ce n'est plus très très courant parce qu'on a de moins en moins de troc. Mmh. Certains disent que d'ailleurs c'était l'un des objectifs de la charia que de mettre de côté le troc et de monétiser les transactions pour qu'on puisse avoir le moins d'aléas possible. Parce qu'imaginez quand on fait du troc, si on a 10 marchandises, on est une matrice avec 10 entrées sur 10, donc ça fait 100 choix, 100 qualifications de valeurs possibles. C'est trop. Donc, si on fait juste une seule entrée sur 10, on n'en a plus que 10. Donc, en fait, monétiser, ça permet d'avoir plus d'équilibre dans les transactions, plus de transparence dans les marchés. Et donc, à partir de là, certains disent que l'un des objectifs de l'interdiction de vendre l'or contre l'or, l'argent contre l'argent, les 6 catégories et par extension, c'était justement de monétiser les transactions. Et donc, le riba aujourd'hui le plus courant, c'est simple. C'est ce que pratique la banque, c'est l'usure. Aujourd'hui, les institutions usuraires, qu'elles soient des institutions de crédit, des institutions bancaires, etc., eh bien, leur métier, c'est l'usure. Il peut arriver qu'elles fassent des transactions licites ici et là, comme par exemple changer de l'euro contre du dollar. C'est possible. Mais leur cœur de métier, c'est l'usure. C'est gagner de l'argent avec la facilité de caisse, avec le prêt, avec le temps.
Et pourquoi le législateur, c'est dit Mohamed, donc Allah a interdit le riba? Donc, pourquoi est-ce qu'il n'a pas permis justement que l'argent, avec le temps, puisse rapporter plus d'argent? C'est quoi l'objectif qui est visé?
On a énormément d'explications à ça. La première d'abord, c'est dhulm, le fait qu'il y a une partie qui est sûre de gagner et l'autre qui peut gagner ou perdre. Deuxièmement, souvent ça arrive dans des situations d'exploitation. En général, l'emprunteur est dans des situations plus faibles, plus vulnérables. Troisièmement, quand on voit la crise de 2008, on se dit, mais subhanallah, c'est une crise de riba, la crise de 2008. Et d'ailleurs, la crise de 2008, aujourd'hui, s'enseigne dans les manuels d'économie. C'est une crise qui est une crise de riba, c'est-à-dire une crise qui a démarré avec l'élargissement de l'assiette des prêts aux États-Unis et qui s'est amplifié avec l'élargissement de l'assiette des produits financiers qui véhiculent ces prêts, donc les subprimes, les crédits de mauvaise qualité, et qui s'est diffusé avec la vente de la dette, donc la titrisation de ces subprimes dans le monde. Et donc c'est vraiment une crise de riba, cette crise de 2008. Et on comprend que, enfin, vu l'état dans lequel elle a laissé le monde, un état financièrement très grave, eh bien, c'est l'une des sagesses de l'interdiction de ce riba, justement, c'est éviter ces chamboulements économiques. C'est une autre explication, enfin une autre justification aussi, c'est le fait que ça rend la vie plus chère pour les personnes pauvres, donc pour les personnes riches. Là, je renvoie à ma vidéo, enfin ma série de vidéos, je pense, sur l'intérêt et le riba, où j'explique ça, mais j'ai fait une vidéo qui parle des conséquences dramatiques des intérêts bancaires. Il y en a une en français et une en arabe. C'est une heure de calamité dans le monde que l'on vit à cause du riba.
On en avait parlé lors du premier podcast, et je renvoie aussi donc le public vers ce podcast-là. Donc moi, lorsque je dépose mon argent en banque, que ce soit un compte courant ou un compte épargne, un compte A, comme ils appellent ça en France, en réalité, je suis en train de prêter de l'argent à la banque.
Oui.
C'est pour ça que la banque, en retour, me donne riba, elle me donne un intérêt sur ce prêt qui a été fait.
Oui, c'est un prêt. La qualification qu'ont fait les jurisconsultes, c'est un prêt ou c'est un produit hybride entre le prêt et l'ouadia. Et donc, à partir de là, si c'est un prêt, ça ne doit pas entraîner quelque surplus que ce soit. Le problème, c'est que même si ça n'entraîne pas quelques surplus que ce soit, cela aide quand même cette institution.
Bien sûr.
Et donc, à partir de là, si on veut passer au niveau supérieur, il faut même ce prêt le retirer et le mettre dans des alternatives qui proposent soit des institutions financières islamiques, soit des comptes cantonnés. Enfin, on a un certain nombre d'alternatives qui apparaissent de plus en plus aujourd'hui dans la place.
Alors justement, dans la situation où j'ai pas d'alternative, on se limite à quoi, Sidi Mohamed? Au compte courant. Donc le compte épargne, lui, il est totalement à bannir. Donc on conseille nos frères et sœurs de fermer le plus vite possible leur compte.
Il faut voir, parce que même dans les banques, on a des banques qui, après la crise de 2008, se sont engagées à faire de la finance plutôt éthique, de la finance verte, etc. etc. Donc il faut essayer de voir celles qui sont le moins usuraires et le moins qui se comportent le moins en requin dans le monde de la finance. Et à partir de là, dans ces banques-là, on peut ouvrir un compte courant en se limitant à ce qui est nécessaire, parce que dans un certain nombre de pays européens aujourd'hui, le cash est quasiment disparu.
Il disparaît.
Donc, si ce n'était le tourisme, il aurait peut-être déjà disparu. Donc, effectivement, un certain nombre de transactions passent obligatoirement par la banque. Et donc, à partir de là, on essaie de limiter cet argent qui est exposé à la banque, qui est déposé donc à la banque et qui lui permet elle aussi de prêter avec intérêt à d'autres clients.
Justement, et je rebondis sur ce que tu viens de dire, lorsque la banque prête, lorsqu'elle me prête, ou à X ou Y pour acheter une maison, une voiture, elle prête de l'argent qu'elle possède ou elle prête de l'argent virtuel ? Est-ce qu'elle prête
les deux, mais beaucoup plus de l'argent virtuel. On a deux choses, on a deux volets. On a le volet création monétaire et on a le volet système de réserve fractionnaire. Mais d'une manière générale, la banque, elle crée de la monnaie en octroyant un crédit. Donc, par exemple, quand on demande un crédit de 100 000 euros...
Elle l'imprime ou...
C'est pas elle l'imprime, c'est juste qu'elle a le droit. Elle a un droit de la part de la banque centrale, l'autorité souveraine, de créer de la monnaie. Donc, à l'époque où les billets s'imprimaient, au 19e siècle, chaque banque imprimait ses dollars. Aujourd'hui, ce n'est plus comme ça. On a une seule monnaie dans le pays. Et donc, l'autorité qui gère cette monnaie, c'est la banque centrale. Cette banque centrale délègue le pouvoir de création monétaire en grande partie, à part les billets qu'elle imprime elle-même. Et la monnaie banque centrale qu'elle crée elle-même et qu'elle prête aux États en contrepartie des bons du Trésor, eh bien, elle délègue ce droit de création monétaire aux banques de second rang, les banques commerciales. Et donc, les banques commerciales, quand un client vient et qu'il demande un prêt, elles créent de la monnaie qui n'existait pas avant. Et quand ce prêt est remboursé, ce montant est détruit, sauf les intérêts. Ouais. Sauf les intérêts qui s'accumulent. Et donc, à partir de là...
Le montant qui a été créé est détruit. Et donc, l'intérêt qui a été payé en plus, lui...
Lui, il reste. Et donc, c'est ce qui fait qu'on a toujours besoin de croissance pour avoir l'équivalent de ces intérêts.
Ouais,
c'est ce qui fait que ce business du crédit...
Il faut consommer.
Voilà. Ce business du crédit, il est de plus en plus perpétué. Pourquoi ? Parce qu'il est rentable. C'est rentable de créer de la monnaie qui n'existe pas et de la prêter. D'ailleurs, ça a commencé comme ça, l'histoire de cette création monétaire, depuis 4 siècles en Suède avec la Riksbank et en Angleterre avec les banques au 19e siècle.
Alors, on a, c'est Mohamed, des alternatives. En France, déjà quelques-unes, Laymoon, MuskPay, ainsi de suite.
Je pense que certaines sont accessibles, certaines de celles que vous avez citées sont accessibles même en Belgique.
Liban est belge. Il y a maintenant aussi certains frères qui discutent en Belgique pour essayer de lancer certaines initiatives belco-belges. Ces plateformes proposent des comptes cantonnés. C'est quoi le concept du compte cantonné et en quoi est-ce qu'il est différent du compte courant dans la banque traditionnelle ?
C'est tout simplement un compte que la banque ne peut pas utiliser et reprêter à une autre personne en totalité ou en démultiplié via le système de réserve fractionnaire, tout simplement. Donc c'est un compte qui va rester cantonné,
bloqué.
Donc même si cette institution fait faillite, l'argent il est là.
Il est disponible.
C'est ça.
Cette banque-là, est-ce qu'elle peut prêter de l'argent ?
Non, pour l'instant, non.
Sinon,
le compte n'est plus cantonné. Il faut entrer dans une autre formule qui sera les Moudaraba, les Moucharaka. C'est quelque chose qui existe aussi.
Qui existe.
Mais pas pour l'instant.
Les initiatives françaises, pas encore.
Non, pas encore.
Là, ce qu'ils proposent, eux, c'est un compte uniquement cantonné.
Cantonné, exactement.
Très bien. La banque conventionnelle, non conventionnelle, elle gagne sa vie grâce à l'usure.
C'est ça.
Les banques qui font de la finance islamique, ils gagnent leur vie comment ? Est-ce que uniquement avec les frais d'opération, c'est quoi le...
Dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit « Wa halallahu al-bay'a wa haram al-bay'a ». Donc Dieu a permis la vente et interdit l'usure. À partir de là, la vente permet de faire du profit. Donc si ces banques veulent faire du profit, ils n'ont qu'à vendre. Ils peuvent vendre des services, les commissions, les paiements, les transactions. Et ils peuvent vendre des biens. Peuvent avoir des stocks de voitures, d'immobilier, etc., ou acheter des biens et les revendre. Ils peuvent investir en tant qu'actionnaire, en tant que pourvoyeur de fonds, dans des projets avec des entrepreneurs. Il y a moult possibilités de faire du profit. Ce n'est pas ce qui manque.
Ok. Moi, aujourd'hui, si je veux mettre mon argent dans une institution financière islamique, en Europe francophone, il y a des institutions islamiques musulmanes qui vont pouvoir faire fructifier mon argent en respectant la législation islamique ou pas ?
Ça commence à apparaître, ça commence à apparaître. D'ailleurs, beaucoup de personnes me contactent à ce sujet, c'est-à-dire le sujet de placer une petite épargne, une épargne plus ou moins importante dans un investissement qui est halal, licite. Il n'y a pas beaucoup de possibilités. Nous faisons un grand travail d'exploration des pistes d'investissement pour répondre justement à cette carence majeure. Et on arrive quand même à proposer un certain nombre de solutions de placement. En général, ce sont des investissements.
Pourquoi, si on n'arrive pas à trouver des pistes, parce que la législation des pays est en contradiction avec...
Tout simplement parce que nous n'avons pas suffisamment aujourd'hui de plateformes faites par des jeunes musulmans qui vont chercher des projets, des pistes d'investissement et les proposer à la communauté musulmane.
Barakallahu fika, Assi Mohamed.
Et aussi, une chose qui peut-être freine cette innovation, ce sont les fatwas qui disent que ce n'est pas grave d'emprunter avec la banque pour le logement, etc., etc., ou d'autres considérations comme celle-ci. Ce genre de fatwas ont été un gros frein à l'innovation dans la finance islamique en Europe, même si elle part d'une bonne intention.
Justement, je voulais te parler de cette fatwa, c'est Mohamed. Je voulais avoir ton avis, justement, parce que ceux qui utilisent cette fatwa, donc c'est la fatwa du Conseil européen, se basent sur le haja et non plus le daroura. Donc sur le besoin et puis non pas la nécessité vitale. Tu valides?
Bon, moi, voilà, c'est pas ton rôle. Ce que je sais, c'est pas mon rôle. Les savants sont dans leur rôle. Mais ce que je sais, c'est que Daroura a été expliqué par un certain nombre de savants également. Tuqaddaru bi qadariha. Et Daroura, c'est la nécessité vitale quand on a une crainte sur son corps, son intégrité physique, corporelle. Là, on est dans la Daroura. Et pour la question de l'haja, c'est controversé dans la mesure dans la mesure où j'espère que ces gens-là qui travaillent qui ont travaillé sur cette fatwa prennent conscience du danger de l'imam. Moi je dis actuellement en l'état actuel des choses, un non-musulman, si les conséquences de l'intérêt lui sont présentées de manière assez systémique et holistique, il combattrait les intérêts, même en étant non musulman. C'est l'aspect miséricorde pour l'humanité en économie. J'appelle ça la miséricorde pour l'humanité en économie, tellement cela lui fait du mal à lui. Sauf que tellement c'est macro, c'est loin, qu'on n'arrive pas à se représenter le mal que l'on subit. Par contre, quand on va au supermarché, qu'on voit les prix augmentent, l'immobilier augmente, tout augmente, et bien là, on ne sait pas exactement localiser d'où ça vient. Et on a ceux qui disent que c'est dû à tel ou tel événement politique, etc., etc. Oui, les causes conjoncturelles peuvent être diverses et variées, mais il y a une cause structurelle qui est là, chaque année. Ah. C'est les intérêts.
C'est Mohamed, une question qui est revenue souvent, c'est pour ça que je t'ai demandé ton avis sur la fameuse fatwa. Beaucoup de nos auditeurs nous disent: je suis aujourd'hui dans la situation de Haja. Est-ce que je dois attendre 5, 6, 7, 8 ans d'être dans la situation de Daroura et je vais y être? Les loyers augmentent, tout augmente, pour pouvoir profiter de cette fameuse fatwa? Ou est-ce que je peux anticiper et me dire pourquoi perdre 5 années? Parce que dans 5, 10 ans, il y a quelques années, par exemple, ici en Belgique, le loyer représentait plus ou moins un peu moins du tiers des revenus mensuels. Aujourd'hui, le loyer représente plus de la moitié. Dans certaines familles où il y a un seul revenu, c'est deux tiers des revenus. Est-ce qu'eux, on peut leur permettre d'anticiper Daroura et de commencer aujourd'hui d'acheter avec cette fameuse fatwa?
En jurisprudence, la Daroura ne s'anticipe pas, elle se vit. C'est-à-dire que quand on est en Daroura,
on attend,
par exemple, si on doit manger le Meïta, on mange ce qui est nécessaire seulement, on n'emporte pas. On n'anticipe pas la daroura. Parce que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui connaît le futur.
Non.
Et donc à partir de là, si on avait appliqué cette fatwa, par exemple, dans des pays où la finance islamique est apparue, prenez par exemple le Maroc, ça a commencé en 2017. On aurait pu avoir quelqu'un en 2016 qui nous dit, je vais prendre la haja, je vais prendre un crédit. Et il est parti pour 25 ans. 2017, finance islamique.
Ouais.
Donc en fait, qui nous dit que demain, ou dans 6 mois, on n'aura pas un jeune ou une équipe de jeunes qui vont lancer une solution, parce qu'aujourd'hui, avec les fintechs, c'est devenu très, très facile de lancer ce genre d'initiative. Qui nous dit qu'on n'aura pas une alternative demain, enfin pas demain, mais dans 6 mois ou dans 1 an ou dans 1 an et demi à Bruxelles. Je travaille avec justement en tant que Sharia Board dans ce domaine-là et je vois que c'est quelque chose qui est totalement dans les cordes de notre nouvelle génération.
Ok, barakallahu fik, c'est Mohamed. On a parlé de l'Aimoun et de MuskPay pour tout ce qui est compte cantonné. On demande, il y a beaucoup du public qui demande des noms de banques qui font de l'investissement islamique conforme à la charia. Est-ce que tu as des noms à nous proposer ?
Pour l'instant, en Europe, non. Ce sont des initiatives.
Même des initiatives au Moyen-Orient
ou... Oui, au Moyen-Orient, on a un certain nombre d'initiatives. Enfin, au Moyen-Orient, on peut investir dans ce qu'on appelle les actions propres. Donc, les personnes qui sont au Moyen-Orient, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont installés aux Émirats, en Arabie Saoudite notamment. Celles-là, elles ont accès à ce qu'on appelle les actions propres. Et donc, en entrant en bourse, on peut acheter des actions d'entreprises qui ne font pas de riba, ni en prenant, ni en donnant des intérêts. Et donc, ces entreprises ne prennent pas d'intérêt, ne donnent pas d'intérêt, et elles respectent les critères de la charia. Donc, leurs actions sont licites. Donc, on peut acheter des actions et investir pour ces personnes-là. Mais ça va venir très bientôt, Inch'Allah. Ça commence déjà en Europe. En Angleterre, il y a des initiatives qui sont basées sur les critères à Wi-Fi. Donc, ça vient.
Aux États-Unis, ça se développe ?
Aux États-Unis, je ne connais pas très bien le marché américain, à vrai dire, mais j'ai entendu qu'il y a quelques initiatives.
Très bien. Alors, une autre question qu'on doit sûrement te poser très souvent, Sidi Mohamed, on ne touche pas le riba tant qu'on n'est pas dans le Daroura, mais quelles sont alors les alternatives aujourd'hui ?
Vous savez que l'imam Malik n'a pas permis le riba même pour Daroura.
Vous m'apprenez quelque chose, Sidi Mohamed.
C'est impressionnant.
tu as mis court à ma question en disant ça. Donc, quelles sont d'après toi les alternatives qu'on peut proposer à la minorité musulmane en Belgique, en France, en Europe, pour pouvoir faire face à l'explosion des prix des loyers ? Comment devenir propriétaire aujourd'hui ? Et est-ce que l'islam encourage le fait d'être propriétaire ou pas ?
Non, bien entendu, l'islam décourage la dette, donc forcément, si on a moyen d'être autonome financièrement, c'est mieux. Al-mu'min al-qawi khayrun min al-mu'min al-da'if.
Le croyant fort est meilleur que le croyant faible.
Bien entendu, mais à partir de là, là on parle de halal haram, donc on n'est pas dans al-fadil ou al-mafdoul, on n'est pas dans le bien et le très bien, là on parle de bon et mauvais. Donc, quand on joue entre le bien et le très bien, on peut naviguer. Mais quand on parle du bon et du mauvais, du halal et du haram, là, on est en danger. Du coup, à part le fait de pousser la communauté via un maximum de coordination dans les centres culturels islamiques, dans les communautés des jeunes musulmans, etc., à lancer des initiatives, et encore une fois, ce sont des choses qui prennent beaucoup moins de temps qu'on l'en pense, que l'on ne pense, et qui sont totalement accessibles, eh bien, al-hajat umul ikhtira'. Le besoin, c'est la mère de l'innovation.
C'est le déclic.
Donc à partir de là, ce besoin, c'est peut-être la clé justement pour qu'on se réveille et qu'on innove beaucoup plus pour servir une demande qui est latente, qui est là. Ce sont des millions d'euros qui attendent,
c'est pas plus,
quelque chose à faire.
C'est Mohamed, parmi les alternatives, on parle souvent de l'murabaha. Tu peux présenter un peu le concept de l'murabaha ?
Le murabaha, tout simplement, c'est le fait d'acheter un produit pour le revendre avec une marge. Donc jusque-là, tout est correct, mais celle qui pose problème, c'est ce qu'on appelle murabaha lil-amir bishira. C'est la murabaha pour le donneur d'ordre. Et donc c'est en fait quand vous allez chez une banque et vous lui dites « achetez tel bien et je vais l'acheter de chez vous ». Et elle vous fait signer un engagement préalable à l'achat, ce qu'on appelle l'ouad mulzim, la promesse contraignante, avec une marge de bonne foi, Hamish Jidia. Cette murabaha, elle a été permise par certains, contestée par d'autres. Et donc, c'est elle qui est pratiquée aujourd'hui largement dans le monde musulman via les banques islamiques.
Avec l'ouad mulzim.
Souvent, pas toutes. Certaines, dans certains pays, ne pratiquent pas l'ouad mulzim. Et elles ont des taux de remboursement qui avoisinent les 98%, donc je ne comprends pas pourquoi elles s'entêtent toujours à appliquer l'ouad mulzim. Mais c'est parce qu'en réalité, encore une fois, on revient à la vision fondatrice et aux fondamentaux. Les gens qui sont allés travailler dans les banques islamiques ont appris des techniques financières islamiques. Ils n'ont pas appris la philosophie de l'économie islamique, les fondamentaux de l'économie islamique, la jurisprudence des transactions. Pour beaucoup d'entre eux, bien sûr, pour certains, ils l'ont. Et donc, ce qui fait qu'on a pondu des contrats, dans mon doctorat, j'ai eu la possibilité d'analyser les cabinets qui produisent les contrats avec lesquels les soukouks sont émis en bourse. Les soukouks, ce sont des certificats d'investissement, une sorte d'alternative aux actions, obligations, etc., islamiques. Les 7 plus grands cabinets au monde qui détiennent à peu près 100% de parts de marché, tous les 7 sont des cabinets occidentaux.
Subhanallah.
Comment voulez-vous qu'un cabinet qui baigne dans la culture usuraire, qui a ses modèles, son knowledge management, ses contrats modèles, ses contrats types, son usuraire, il va se dire je vais changer intérêt par marge ici et là, je vais changer tel et tel paragraphe. Mais finalement, vous avez la même philosophie. C'est pour ça que la Wifi, avant 2007, disait que 85% des soukouks ne sont pas islamiques, même si on les appelle islamiques. Ce qui a fait que Goldman Sachs s'est retiré du marché des soukouks. Donc, quand on vient à la finance islamique avec une vision d'économie usuraire, bonjour les dégâts.
Je voudrais juste préciser au public, Assi Mohamed, parce que tu as utilisé un terme important, donc ce fameux wa'd al-mulzim, dans le Murabaha, la majorité, je pense, des savants, exige qu'il n'y ait pas ce point d'obligation d'achat dans le contrat.
Dans les savants classiques, je n'en connais pas
un seul qui le permet. Donc le Murabaha, si vous voulez racheter la maison à qui que ce soit, qui l'a acheté pour vous, vous ne pouvez pas, il ne peut pas vous obliger dans le contrat à l'acheter. Donc c'est-à-dire que tu as
avant droit, que lui l'achète.
Voilà, tu as le droit de te retirer avant.
C'est ça.
Voilà, c'est ça. Donc c'était le point de le Murabaha. Une des autres alternatives, c'est des Mohammed pour les musulmans d'Europe, de Belgique, de France, de devenir propriétaire, c'est le fameux viager. Et là encore, on a eu des dizaines de questions sur le viager. Est-ce que tu peux nous parler de ce concept-là ?
Le viager, tout simplement, ça consiste à payer un loyer à la personne qui occupe, enfin, la propriétaire du logement après la signature du contrat jusqu'à sa mort. Sauf que là, on a un petit souci, c'est que il y a un consensus des savants sur l'interdiction du gharar dans le prix. Donc, dans une transaction où le prix n'est pas clair, il y a une interdiction. Alors on va me dire, mais la mensualité est claire. La réponse, c'est qu'en réalité, la mensualité, ce n'est pas un objet du contrat en soi, parce qu'on n'achète pas une mensualité, on achète un logement. On va devenir propriétaire du logement à la mort de la personne. Donc en fait, le contrat, c'est la somme des mensualités. Or, si la personne, elle vit 20 ans ou 40 ans, c'est très différent, c'est du simple au double. Et on a eu des exemples de viagers où l'acheteur est décédé avant le vendeur. Donc, ça nous pose énormément de soucis. Ce contrat n'est pas acceptable dans cette forme-là. Par contre, si on fait un contrat où le prix est clair, c'est-à-dire 15 ans de mensualité, avec tel montant de mensualité, de telle sorte que si on additionne les mensualités, on a un prix clair en face de nous, on a un total clair, là, le prix, il est clair. Et le logement, il sera libéré après 15 ans. Là, c'est clair.
La libération du logement, c'est aussi une des conditions. Imaginons qu'au bout des 15 ans, le vendeur n'est pas décédé.
Au bout des 15 ans, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au bout des 15 ans, encore une fois, c'est là où notre communauté se différencie. C'est qu'on a un côté éthique, on a un côté de miséricorde, de rahma. Kounou rabbani. Donc si on veut être rabbani, on doit avoir de la rahma pour les autres. Et donc, c'est très compliqué de mettre quelqu'un qui a 102 ans
à la porte.
Donc, je rappelle que l'Indonésie, c'est le plus grand pays musulman dans le monde. Et l'islam y est entré par l'éthique commerçante, pas par une autre manière. Et donc, cette éthique commerçante, c'est quelque chose dont on se prévaloit. On doit se prévaloir. Et donc, dont on se prévaut, et on doit se prévaloir de cette éthique et la mettre en avant dans la société parce qu'elle en manque. Et la société est trop, comme a dit Abdou Al-Msiri, on est passé de la société tarahoumia, mais le mujtama tarahoumi, une société où les gens se connaissent, se font miséricorde entre eux, s'entraident, à la société taqoudia, où les gens sont froids, où c'est le papier qui tranche et le matériel. Donc, on doit revenir à cette société tarahoumia pour être rabbaniyin. Et donc, c'est là où l'esprit revient, l'esprit du message de l'islam. Et donc, à partir de là, si au bout des 15 ans, la personne est toujours vivante, il faut avoir prévu une sorte de compensation, par exemple une priorité au loyer, ou bien un loyer avec un prix préférentiel, ou bien tout ça de manière non contraignante, bien entendu. Et encore, les malikites permettent d'avoir un contrat de vente qui est supplanté d'un contrat de loyer, parce que pour eux, ce sont deux transactions qui ne sont pas antinomiques. Et donc, si les deux sont clairs avec des prix clairs, on peut les attacher. Et donc, à partir de là, mais bon, Majma al-Fiqh a dit qu'il faut que ça soit deux contrats différents. Et donc, à partir de là, cette personne-là, il faut être rahim avec elle. Tout simplement.
Ici en Belgique, je ne sais pas comment ça se passe, c'est Mohamed, mais pour que tu le saches, en Belgique, pour ce qui est des viagers occupés, lorsqu'on arrive au bout du terme fixé, 15 ans, si les crédits rentiers, donc le vendeur, est encore vivant, il a le droit de l'usufruit jusqu'à sa mort. Sauf arrangement entre les deux parties.
Ça revient au même.
Voilà, on ne peut pas les chasser.
Ça repose l'inconnu. Voilà. Ça repose l'inconnu dans l'équation.
Mais est-ce qu'il n'y a pas la notion de rahma justement ? Il restera. Non, on ne paye plus. Tu prends la propriété du bien, te revient, mais pas l'usufruit du bien. Et donc la personne va...
Oui, vous prenez la nue propriété. Voilà, mais après, en réalité, ça c'est un contrat de... C'est comme un contrat de donation qui est dans lequel il y a incertitude. Et les savants, il y a une divergence entre les savants sur la question de l'incertitude dans la donation. Alors. Et là, l'incertitude, elle est potentiellement grande parce qu'on ne sait pas combien d'années il va vivre. Mais encore une fois, ça c'est du cas par cas. On peut pas... Il faut voir le contrat pour pouvoir se prononcer par rapport à ça. Mais effectivement, il faut mettre en avant ce côté de Rahma.
Ok, c'est encore une question qu'on nous pose. Dans la situation où on se met d'accord sur 15 années, 300 000 euros par exemple, et le vendeur, le crédit rentier, meurt après 10 années. Est-ce qu'on stoppe ou bien là aussi rentre la darara ou la dirar ? On continue à payer les héritiers s'il y en a ?
Non, les héritiers sont de plein droit.
Ok.
Plus des ayants droit pendant les 5 années restantes.
Très bien.
Il faut compléter le montant.
Il faut arriver au montant fixé. Donc,
c'est ça, parce que la vente, c'est le logement contre tel montant qui va être payé sur telle durée. Donc là, il n'y a pas d'incertitude. Le logement, tel montant, telle durée. Donc s'il décède avant la durée, ses héritiers sont ayants droit.
Très bien. Ben, moi, j'ai eu une question à Sidi Mohamed, une personne qui a eu cette situation-là. Au bout de 13 années ou 12 années, le vendeur est décédé. Aucun héritier disponible.
Ça, c'est des cas exceptionnels qui ont leur...
Voilà.
Qui ont leur normalement, Beit al-Mal, huwa warith man la warith lahu.
Cette personne-là, en fait, elle explique que dans le choix de son viager, elle a mis comme condition d'avoir quelqu'un qui n'a aucun héritier pour sortir Mbeb Wassa par rapport au fait qu'à sa mort...
Ça aussi, c'est du cas par
du
cas.
Du cas par cas.
C'est du cas par cas, exactement.
Comment est-ce qu'on contacte Sidi Mohamed pour le cas par cas?
Je suis très joignant.
On donnera, Inch'Allah...
Non, vous pouvez voir avec un savant. Alhamdoulilah, il y a des savants qui s'y connaissent dans les jurisprudences des transactions. Encore heureux, alhamdoulilah.
Ok, c'est Mohamed. Al-Musharaka, est-ce que c'est une alternative à la...
Al-Musharaka, c'est en fait remettre au centre du jeu une transaction qui a été marginalisée par le capitalisme usuraire. Pourquoi ? Parce que justement, elle ne repose pas sur l'usure. Elle existe dans l'économie actuelle, mais elle est très marginalisée. C'est ce qu'on appelle notamment le venture capital, le capital risque. L'association, quand deux personnes s'associent avec un capital, c'est une moucharaka. Quand un fonds d'investissement investit dans une start-up, c'est une moucharaka. Donc tout cela, ce sont des formes de moucharaka qui permettent de ramener le concept fondamental de finance islamique, de l'économie islamique, qui est l'adl, dans le mu'amalat. On a même une sourate qui commence par Wailunil Mutaffifin. Donc cet équilibre dans la balance, il est là, il accompagne tout l'esprit de l'économie islamique. Et donc cet équilibre, c'est le fait qu'on va avoir une symétrie entre le kharaj ou le daman, une symétrie entre le capital et le profit. Donc si on va gagner, on va gagner tous les deux, et si on perd tous les deux. Contrairement à l'usure où si on gagne tous les deux, mais si on perd, ben, je perds. Enfin, l'emprunteur perd.
Mais de manière pratico-pratique, comment est-ce que je peux acquérir un bien immobilier en passant pour le Musharaka ?
C'est possible aussi. Le Musharaka, il est surtout fait pour les projets créateurs de valeur, mais ça peut se faire pour l'immobilier aussi.
Les coopératives, c'est le Musharaka, ça ou pas ?
coopérative, oui, c'est une moucharaka. Mm. C'est une moucharaka fil Sharikatul Milk. Et donc, c'est une moucharaka où on va avoir un financier qui va céder progressivement ses parts au prix du marché. Au prix du marché.
Au prix du marché au moment où il cède.
Au moment où il cède, exactement. Ça, c'est très important. On oublie souvent cette clause. Donc, au prix du marché ou au moment où il cède. Et donc, si ça monte, ça monte pour lui. Si ça descend, ça descend pour lui, pour ses parts.
Les deux prennent des risques.
Exactement, exactement. Et s'il arrive quelque chose au logement, c'est chacun au prorata de ses parts.
Ok, c'est Mohamed Barakallahu Fik. On va passer à une autre alternative à l'achat avec riba pour les biens mobiliers ou immobiliers, c'est l'ijara, donc le fameux leasing. Alors en Belgique et en France, en Europe francophone, je ne sais pas, en Europe anglophone, on a deux types de leasing. Nous, on parle de leasing et de renting en Belgique. Donc le leasing, c'est la location avec option d'achat. Le renting, c'est la location longue durée.
Okay.
On va commencer par le leasing. En quoi le leasing est une alternative à l'achat avec riba d'un véhicule, par exemple?
Le leasing, c'est un contrat, contrairement au riba, qui peut être arrangé, qui peut être corrigé. C'est un contrat dont on peut arrondir les angles. Tel qu'il est fait aujourd'hui, il n'est pas bon. Parce que souvent, il mixe deux contrats en un, qui est le loyer selon Mjma al-Fiqh al-Islami, le contrat de location et le contrat de vente avec des implications antinomiques. C'est-à-dire que pendant la durée de location, on fait supporter au locataire les risques majeurs du bien, alors que normalement, c'est le propriétaire qui doit supporter, souvent, avec des pénalités de retard, avec aussi des assurances souvent qui ne sont pas conformes à la charia. Et donc, ce sont des choses qu'on peut corriger. Et donc, Mjma al-Fiqh al-Islami. Oui, voilà, exactement. Mjma al-Fiqh al-Islami, si vous cherchez sur Internet, Fatwa Mjma al-Fiqh al-Islami sur le leasing, vous allez trouver les clauses. Il pose un certain nombre de conditions pour que ça soit licite, notamment séparer les deux contrats, que chacun supporte ses responsabilités, que chacun soit lié à ses propres responsabilités, que le prix de location soit un prix qui reflète le marché réel. Et donc, à partir de là, oui, effectivement, on a la possibilité d'enlever les clauses de pénalité de retard.
Qui est du riba.
C'est ça, bien sûr. Donc, on peut corriger.
Donc là, on est dans le leasing. Et dans le renting, la location longue durée?
Le renting pose encore moins problème parce qu'il n'y a pas de clause d'achat dans le contrat.
Donc, c'est un seul et même.
Donc, il faut enlever les clauses de pénalité. Et après, à la fin de la location, s'ils se mettent d'accord sur un contrat de vente, ils négocient le prix entre eux. Et ça, c'est autre chose, oui.
Ok. Si Mohamed, je voudrais aussi te poser une question sur... pour ce qui est des biens de consommation, le crédit gratuit, le crédit 0%. Acheter mon frigo, ma télévision.
Ça, c'est une belle mascarade.
C'est une belle mascarade.
C'est une belle mascarade parce que souvent, on fait entrer un organisme financier dans l'équation. Et donc, on a un supermarché qui vous dit, vous allez acheter tel téléphone à 1000 euros, vous allez payer en 10 mois 100 euros. Vous, vous dites, mais c'est formidable, c'est 100 euros fois 10, ça fait 1000 euros, c'est du crédit gratuit. Ou qu'on appelle aussi Buy Now, Pay Later. BNPL avec carte bancaire, vous passez la carte, vous avez payé en 10 fois et avec le prix de vente affiché. Sauf que où se trouve, parce qu'encore une fois, la règle, dans le contrat, vous allez trouver 3 signatures, là, il faut s'arrêter. Si on avait 2 signatures, il n'y a pas de problème, le vendeur et vous. Mais là, le problème, c'est qu'il y aura un organisme financier qui va venir payer le vendeur en cash. Il va lui payer moins. Il va lui payer 950 euros, 960 au lieu de 2000. Et il va venir vous facturer par échéance ce financement à 1000. Donc en fait, il vous avance 950, 960 et il va récupérer 1000. C'est ça la vraie équation qu'il faut voir. Donc tout ce qui est crédit gratuit, BNPL, taux zéro, il ne faut pas y croire, sauf si c'est une relation entre vous et le vendeur ou une filiale à 100% du vendeur et qu'il n'y a pas d'organisme de financement. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas envoyé vos fonds depuis la banque, oui, mais ça, ce n'est pas la banque qui va venir financer la transaction. Ce sont vos fonds. Ce sont vos fonds, exactement. Donc il n'y a pas de tiers financier dont le métier c'est l'usure qui va rentrer dans l'équation.
Donc moi, lorsque je vais acheter mon téléviseur dans une grande surface, je décortique le contrat de vente.
Et dans 90% des cas, vous allez trouver qu'il y a un financier qui va rentrer.
Est-ce qu'il est possible qu'eux aient un contrat avec le financier différent du contrat qu'il a avec moi?
C'est-à-dire que vous ne détectiez pas dans votre contrat que ça se fait.
Est-ce que c'est licite pour moi à ce moment-là?
Là, Disons que là, il faut appliquer le principe de ghalabat ad-dhann. C'est-à-dire que, en général, la pratique du marché, c'est qu'il y a un financier. Donc, il faut expliciter. Est-ce que c'est une relation bipartite ou tripartite ?
Le demander clairement au vendeur.
Voilà. Et ensuite, il y a des alternatives. Vous pouvez lui faire un ordre de virement irrévocable.
Non.
Qu'est-ce qui empêche de faire ça ?
Une domiciliation. Ouais. C'est Mohamed, pour ce qui est des achats à taux zéro, mais avec des frais de dossier, c'est la même chose. S'il y a un tiers qui entre, automatiquement, ses frais de dossier, c'est riba. S'il n'y a aucun tiers entre lui et moi...
C'est ça. Si c'est des vrais frais de dossier qui ne sont pas variables selon le montant et qui sont entre vous et le vendeur, ouais. Ça c'est...
Je vais chez un conseiller.
À la rigueur, moi je préfère éviter toutes ces clauses, frais de dossier, taux... Il faut demander une facture globale.
Non.
Donnez-moi combien je vais payer. Faites-moi une facture avec le montant global. C'est pas 1 000 euros, c'est 1 200. Il n'y a pas de problème. J'achète à 1 200. Vous m'écrivez une facture avec 1 200, paiement en 3 fois. Je vous fais 3 virements permanents, irrévocables depuis la banque. Je vous envoie le papier cacheté par la banque.
Non.
C'est terminé. Mais
c'est accepté en général.
Ça c'est de toute façon. Ça c'est. En tout cas, je sais que ça se fait.
Rien à...
Et j'ai vu de mes propres yeux des contrats négociés, c'est-à-dire où le client a pu retirer par exemple des clauses qui ne sont pas bonnes comme les pénalités de retard, ça je l'ai vu en Europe, donc ça se négocie. Il ne faut pas croire que tous les contrats sont des contrats d'adhésion. Beaucoup de contrats, notamment plus la société est petite, la société avec laquelle vous traitez, plus vous avez le loisir de négocier le contrat. Les très grandes surfaces, les très grandes sociétés en général, ils ont des contrats pré-imprimés,
standard.
C'est pas trop négociable, et encore. Mais quand vous allez vers une petite structure, là, c'est négociable.
Justement, je voulais te poser cette question-là, c'est Mohamed. Par rapport à ma relation à ma banque, je reviens à la banque, est-ce qu'on doit négocier obligatoirement l'interdiction du découvert dans notre compte ?
Systématiquement. Il faut l'exiger.
Voilà, l'exiger.
Il faut l'exiger. Okay. Pas de facilité. Ils appellent ça de plusieurs manières. De toute façon, la banque, elle fait... 36 000 transactions qui sont basées sur l'usure, elle leur donne des noms différents. Facilité de caisse, agio, découvert, avance sur salaire. Enfin, ils vont vous inventer énormément de noms. C'est le même produit.
Et Mohamed, une autre question pour revenir à ce que j'avais introduit au niveau du viager. J'ai oublié de te le poser aussi. Et c'est une question importante qui est revenue souvent. La rente, quand elle est indexée, cette indexation représente aussi riba ou pas ?
La rente
mensuelle. On s'est mis d'accord pour le viager sur 15 ans. 300 000 euros divisé sur 15 ans, ça représente 500 euros par mois, un exemple. Mais moi, chaque année, il y a l'indexation, l'inflation qui fait que on me dit, ben non, l'année prochaine, ce sera plus 500 euros, mais ce sera 517 euros.
Le mieux, c'est de la fixer, parce que là, on va entrer dans le rarage sur le prix, qui est interdit de manière... Il y a un consensus sur l'interdiction du rarage sur le prix. Il y a des normes, effectivement, notamment, qui permettent d'indexer sur des indicateurs connus, mais il est préférable de prévoir de facto cette augmentation et de dire que, voilà, pendant les 15 ans, on va, par exemple, partir sur une augmentation de 3%. Si on fait le calcul mathématique, on va trouver le montant total tout de suite. Par contre, si vous indexez un taux inconnu, et ça peut être dangereux. D'ailleurs, l'une des causes principales de la crise de 2008, c'était les taux variables, qui revient à l'indexation en réalité du taux. Donc il est préférable de fixer pour éviter justement le l'incertitude sur le prix, qui est interdite de manière consensuelle chez les savants.
Ok, barakallahu fik, Assi Mohamed. On va passer à une autre thématique, qui est l'investissement. Mashallah, on a énormément de nos frères, nos sœurs qui ont les moyens d'investir et qui cherchent des opportunités sharia conformes lors de leur investissement. Est-ce qu'on a aujourd'hui des produits que tu peux présenter qui sont conformes à la sharia et que nos frères et sœurs, par exemple, Sukuk, on avait parlé de Sukuk, les obligations plus ou moins.
On a des Sukuk qui sont surtout émis dans les pays du Golfe et qui sont accessibles via les places financières de ces pays. Mais en termes d'investissement, aujourd'hui, dans l'état actuel des choses, on est surtout dans le private equity. C'est-à-dire qu'on est dans des investissements de projets identifiés, ciblés. On commence à avoir des plateformes de crowd immobilier, par exemple Sharia Compliant, qui commencent à apparaître ici et là. On essaye de suivre un petit peu ces évolutions. Mais aujourd'hui, on est largement dans le private equity, c'est-à-dire qu'on investit, on essaie d'aider les gens à investir dans des projets d'autres entrepreneurs pour participer le plus possible à une économie proche, de proximité et réelle.
Ouais. Le trading, c'est Mohamed ? Est-ce que c'est une possibilité ?
C'est une activité à délaisser.
Totalement délaissée ?
Délaissée. C'est à peu près le cœur de l'objet du second livre, La crise parfaite. Et c'est une activité qui ne crée pas de valeur, c'est une activité qui détruit de la valeur, c'est une activité qui est dominée par de l'illicite, et c'est une activité qui fait perdre le temps à énormément de jeunes, et c'est une activité où le risque de perdre est supérieur au jeu de hasard, au qimar, au casino. Dans le casino, vous avez 13 personnes sur 100 qui sortent gagnantes, selon une étude d'une université américaine que je peux vous citer. Dans le trading, vous avez une personne sur 100 qui sort gagnante. Alors bien entendu, c'est elle qui fait le buzz sur les réseaux sociaux.
Ouais, c'est elle qui passe devant.
Voilà. Donc à partir de là, c'est une activité qui est à somme nulle, à somme négative en réalité. Tout cela s'est décortiqué dans mon livre « La crise parfaite ». Et c'est une activité qui est à délaisser de la part de nos jeunes. C'est une perte de temps, d'argent. Et au niveau macroéconomique, c'est une activité qui détruit de la valeur.
On a des indices boursiers islamiques, hein, c'est Mohamed.
Oui, ça peut se faire, mais ce n'est pas du trading. Là, on parle de l'investissement à long terme. Là, on parle d'acheter des actions, d'acheter des parts d'entreprise, d'acheter des produits. On ne parle pas d'entrer à la bourse, d'acheter à 10h30, de vendre à 10h40.
Ouais.
Voilà. Enfin, c'est du trading en réalité. Et de suivre des graphiques matin et soir et de rêver de ces graphiques.
Savoir vendre au bon moment. Ouais.
Le bon moment, tout ça, c'est très subjectif.
Et de l'investissement en bourse, il y a un nom spécial pour cela, l'investissement ?
De toute façon, ces jeunes apprentis traders doivent savoir que les personnes qu'ils ont en face, qui sont les brokers et les grandes banques d'investissement, ont des outils et des équipes 100 fois plus performants et intelligents et outillés de manière robotisée avec les informations
que toi,
que eux. Donc c'est une bataille perdue d'avance pour 99%. Et donc entrer dans cette bataille, c'est une perte de temps. Alhamdoulilah, beaucoup de jeunes ont délaissé le trading suite à un certain nombre de vidéos que j'ai faites, notamment dans la playlist qui s'appelle Crypto et Bourse dans ma chaîne.
Oui, je l'ai vu.
Dans laquelle je parle de justement de ce fléau qui est le trading et qui a fait perdre des fortunes de manière agrégée aux jeunes musulmans. Et pas que aux jeunes musulmans d'ailleurs.
Je rebondis sur ta vidéo Crypto et Bourse, c'est Mohamed. Les crypto-monnaies, c'est aussi une question qui apparaît énormément, qui ressort. Alors tout le temps la même question, est-ce que les cryptos, investir en crypto, acheter de la crypto, est-ce que c'est halal ou est-ce que c'est haram ? Je te laisse répondre.
Alors, je préfère ne pas prendre de position tant que Mejma al-Fiqh al-Islami n'a pas pris de position officielle. Il y a pas mal de savants, notamment, enfin, je ne vais pas citer les noms parce que là j'ai un doute entre deux savants, mais il y a des savants connus qui ont permis, par exemple, le Bitcoin, un certain nombre de conseils de fatwa qui l'ont interdit, etc. Donc c'est encore objet de discussion. Maintenant, ça ferait son chemin, c'est devenu de facto une donnée presque, donc je ne comprends pas toujours enfin, ça devrait tomber bientôt. Mais en tout cas, les projets crypto, l'erreur à ne pas faire, c'est de faire une fatwa crypto.
Ouais, globalisée.
Globalisée. Parce que les différences entre les projets peuvent être énormissimes. Énormissimes. Et donc, on n'a pas de fatwa qui s'appelle fatwa crypto. C'est du cas par cas.
Projet
et comme c'est
projet.
Du cas par cas et qu'il y a des dizaines de milliers de projets, c'est éprouvant. Enfin, vous savez, un papier blanc d'une crypto, ça peut faire 50 pages, 100 pages. Vous imaginez 10 000 fois 100 pages fois 50 pages. Enfin, vous passez une vie dessus, vous ne terminez pas. Le mieux, c'est de, si on est intéressé par un projet, de consulter un savant sur ce projet. Et d'une manière générale, dans ce monde de la crypto aussi, il y a beaucoup d'arnaques. C'est-à-dire que, par exemple, en 2017, 97% des cryptos qui étaient lancés en 2017, aujourd'hui n'existent plus.
Ont disparu.
Donc, quid de ces 97% des milliers de projets ? Eh bien, c'est des projets où les gens ont perdu leur placement. Donc, il faut faire attention avec ça. Bien entendu, c'est l'avenir. C'est une technologie, c'est la blockchain. Mais il y a beaucoup d'arnaques. C'est un peu le Far West aujourd'hui. Enfin, c'était. Aujourd'hui, ça l'est de moins en moins. Mais c'était le Far West de la finance pendant près d'une dizaine d'années, entre 2014 et aujourd'hui, c'était un peu le Far West. Il y a les NFT qui ont fait aussi leur bulle en 2020. Et donc, mais aujourd'hui, ça se stabilise. Donc, on a une évolution boursière qui est comparable à la bulle des dot-com en 99. Mais là, on a eu plusieurs bulles de crypto, contrairement au dot-com, parce que le dot-com, une fois que ça s'est crashé, c'est reparti, mais de manière quasi constante. Alors que dans les cryptos, on a eu quasiment 2017, 2000, 2020, et on a eu à peu près 3 ou 4 bulles, grandes bulles. Bon, il y a eu pas mal de cycles, mais on a eu 3 ou 4 grandes bulles où le gap entre le pic et le creux était quasiment de 50%, voire plus. Donc aujourd'hui, la technologie, elle est certes là, très intéressante, et c'est quelque chose à encourager, et il faut que les jeunes entre dans ce domaine de la blockchain parce que c'est intimement lié au monde des fintechs. Aujourd'hui, ça va de plus en plus passer par la blockchain. Et d'ailleurs, c'est ce monde de la blockchain qui va rendre des métiers comme le métier de banquier obsolètes.
Obsolète. Mais on n'a pas aujourd'hui, par rapport aux deux crypto-projets les plus phares, donc Bitcoin et Ethereum, on n'a pas de savants spécialisés dans l'économie, la finance islamique qui se sont
Si,
exprimés.
si, si, énormément, énormément, mais
Malgré tout, on n'a pas une réponse claire sur.
Non, moi je ne prononcerai pas sur ça. Mais disons
En général, c'est
que
quoi? C'est le pour, le contre?
les organismes officiels, c'est plutôt le contre. Parce que c'est une monnaie, en tout cas le Bitcoin, dans toutes ses caractéristiques, bien que certains la reconnaissent comme étant un actif pour la taxer. Mais c'est une monnaie, et la monnaie, aujourd'hui, dans la vision de l'État moderne, c'est une prérogative souveraine. Donc, une monnaie dont l'auteur est inconnu, etc., ça pose problème au gouvernement. Donc, tout ce qui est conseil de fatwa officiel, à ma connaissance, a rejeté le Bitcoin. Maintenant, on a les savants, les savants individuels ou les petits groupes de savants qui ont fait un ijtihad. Certains d'entre ceux-là l'ont autorisé. Et aujourd'hui, il faut savoir que le Bitcoin est une monnaie qui a cours légal dans deux pays, qui sont le Salvador et la République centrafricaine, et qui sont reconnus comme étant un moyen d'échange dans un certain nombre de pays de l'OCDE et hors de l'OCDE. Donc aujourd'hui, même l'argument que ce n'est pas une monnaie, il n'est plus
Vu que c'est une monnaie.
trop valable, vu que c'est une monnaie reconnue officiellement. Donc c'est quelque chose qui. La seule chose que je dirais, c'est que c'est un monde dans lequel il faut faire attention. Il faut faire attention. Il faut revenir aux savants en qui on a confiance et prendre son avis.
Mais dans tous les cas, Sidi Mohamed, et ça c'est un message à nos frères et sœurs, le public, que le Majma al-Fiqh n'est pas encore répondu.
Ils l'ont étudié en 2019 et ils ont reporté.
Reporter, ne dédouane pas les possesseurs de Bitcoin de devoir payer leurs zakat.
Bien entendu.
Voilà, qu'on soit bien clair, parce
Bien
que
entendu.
moi, je l'ai entendu, je l'ai lu, certaines personnes qui me disaient, mais tant qu'on n'a pas une position claire par rapport au Bitcoin, est-ce que je dois payer ma zakat dessus ou pas?
Non,
Ça rentre
il n'y a pas
dans le calcul de l'assiette de la zakat.
Bien sûr.
Barakallahu fikoum. C'est Mohamed, à côté du Bitcoin, on a aussi d'autres concepts. Et qui est souvent réapparu, c'est le fameux dropshipping. Les personnes qui voudraient investir dans le dropshipping, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est que le dropshipping, Assez Mohamed?
Le dropshipping ou bien le commerce électronique en général, c'est tout simplement le commerce en mode 2.0. Donc, si les règles du commerce sont acceptées, c'est accepté. Si ça ne sont pas acceptées, ne sont pas acceptées. Le dropshipping en général, ça consiste à lister sur son site web des produits qu'on a identifiés dans un autre site web. Et quand la commande est passée chez nous, on va faire la commande ailleurs. De cette manière-là, si le produit n'obéit pas aux règles du salam, c'est interdit. Parce qu'on est dans BMLS. Maintenant, tout comme le renting, etc., on peut arrondir les angles. On peut trouver une manière corrigée. Donc, si l'objet correspond aux règles du salam, et là j'encourage les gens à faire leur recherche un petit peu, il faut que les gens essaient de rechercher.
Il bouge un
On ne donne pas toujours toutes les réponses comme ça, facile. Parce que avant, les savants, ils voyageaient un mois pour un hadith. Aujourd'hui, tu as le Maktab al-Sham, et là, tu as tous les ouvrages des
Personne ne
de
lit.
savants et qui lit. Donc, les gens intéressés par le e-commerce doivent aller faire des recherches sur la transaction qu'on appelle Bay al-Salam. Il a des conditions, il a des règles, il a des choses qui le permettent, des choses qui ne le permettent pas, etc., etc. Révisez Bay al-Salam. Si le produit, l'objet, répond aux règles de Bay al-Salam, dans ce cas, vous pouvez faire le fait de le vendre puis d'aller l'acheter ailleurs. Sinon, eh bien, il faut passer par ce qu'on appelle l'affiliation. Elle a plusieurs formes, mais le contrat de wakala, c'est-à-dire vous entrez en contact avec un fournisseur dans un autre pays et vous traitez avec lui. Il vous donne une sorte de mandat pour vendre son produit et il vous dit « Ok, vendez-le à tel prix, prenez par exemple 50% de commission ou 20%, etc. » Et mes stocks, ils sont de telle et telle quantité. Et je vous enverrai une mise à jour de mes stocks ou bien vous avez accès à mes stocks de manière en temps réel. Ça, c'est une sorte de mandat. C'est comme quelqu'un qui a une entreprise et qui embauche un commercial en freelance et qui lui dit « Écoute, va vendre par exemple mes PC et pour chaque PC vendu, tu as 100 euros. »
Un commercial.
C'est ça.
Donc justement, je vais te poser la question. Je vais te la lire comme elle a été envoyée parce qu'elle répond, elle est vraiment comme tu l'as expliqué, si Mohamed. Donc la personne dit « Est-ce que cette forme de dropshipping est l'équivalent de Salem ?» Il met comme quoi il décrit.
Ah, il veut la réponse.
Ouais, il veut la réponse. Il met comme quoi il décrit de manière détaillée le produit. Donc, ce n'est pas le produit qui est vendu, mais c'est la description qui est vendue. Il met que le paiement se fait avant l'achat. Et il stipule qu'il y a trois points dans le contrat.
Non, pas avant l'achat. Le paiement se fait lors de l'achat.
Lors de l'achat. Okay. Ouais, non, avant
total.
La livraison, je voulais dire.
Le paiement total.
Voilà. Et il explique qu'il dit que ce sera livré au plus tard, la date maximum où le bien devra être livré. Que le produit, il s'engage à ce que le produit soit conforme à ce qui est décrit. Et enfin, il stipule qu'il ne possède pas le stock, mais qu'il a un gérant de stock à l'étranger qui lui ramène en temps et en heure l'état du stock. Est-ce qu'on considère que c'est du dropshipping ?
Si le produit est en stock, ce n'est pas du dropshipping. Ça, c'est bay'u l'ayn l'ghaiba, c'est différent. Parce que bay'u salam, c'est un produit qu'on n'a pas.
Non, en stock chez le fournisseur.
Donc là, s'il est en stock chez le fournisseur, donc il est propriété du fournisseur.
Non.
Okay. Donc s'il est propriété du fournisseur, là on est en... oui, c'est une forme de dropshipping, non, parce que ça. Le concept de dropshipping, on peut y mettre ce qu'on veut. Non. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est le concept jurisprudentiel. Là, on est dans B.L.A.N.
C'est le majeur.
Non. On vend un objet, mais qui n'est pas là, qui n'est pas présent et qu'on ne peut pas voir tout de suite là, mais il est ailleurs.
Il est disponible.
C'est ça, exactement. Et ça a des conditions. Vous pouvez chercher, encore une fois. Il faut leur donner un petit peu de... Il faut que les gens...
C'est Abdel Karim, tu dois chercher. Voilà ce que dit Sidi Mohamed.
Bay'u l'ayn l'ghaiba. Et donc, vous cherchez ce concept et vous avez des règles très, très simples qui ne sont pas très nombreuses. D'ailleurs, ça tient en moins d'une demi-page, qui vous permettent de voir que ce bail est possible. Donc vous avez une wakala avec le gérant, c'est le gérant de stock qui vous donne une wakala, et vous avez une commission, donc voilà.
Très bien. Et la deuxième question à Sidi Mohamed, par rapport à cette wakala justement, donc lui vend un bien qui ne lui appartient pas sur son propre site, mais il se permet, selon la demande et l'offre, d'augmenter le prix, de diminuer le prix, aucun souci?
Le prix, c'est une liberté du vendeur. Mais attention, le prix ne doit pas être un rabn. C'est-à-dire que si partout dans le marché, ce produit se vend à 50 et que toi, tu le vends à 250, là, il y a du rabn. Et le rabn donne une option d'annulation dans la jurisprudence islamique. Donc, il faut être dans les eaux du marché.
Non. Ouais, ça va, j'ai compris. C'est Mohamed, une autre question d'un de nos auditeurs qui pose, qui dit « J'ai une épargne ».
Alors juste une précision.
Non.
Je n'ai pas dit que le produit coûte 50 et que vous le vendez à 250. Parce que si tout le marché le vend à 250, c'est que ce produit dans ce marché est vendu à 250, 5 fois son prix, parce qu'il y a très peu de ventes, par exemple. J'ai dit le produit se vend dans le marché à 50
et toi tu
le vends à 250. Voilà.
Donc la question la suivante, et on arrive au bout, c'est Mohamed bientôt. Une personne pose la question, comment est-ce qu'elle peut préserver son épargne de manière licite pour qu'au bout de plusieurs années, l'inflation ne la diminue pas? Et cette personne ne fait pas attention à la zakat.
La meilleure manière, c'est de l'investir. Non. Quand on ne sait pas investir, on achète un petit bien immobilier et on le loue. Ça, c'est pour les gens qui ne savent pas investir. Ou de l'or. Mais sur l'or, il y aura zakat.
Non.
Et donc, de toute façon, la zakat, c'est ce qu'il y a de mieux pour vous, parce que vous épargnez pour l'au-delà. Et donc, l'or ou l'immobilier, mais après, le mieux, c'est de l'investir avec diversification. Par exemple, vous avez 100 000 euros, investir avec 4, 5 personnes, 6 personnes différentes dans des projets qu'ils ont, des jeunes, etc. Business Angel, il y a même des associations de Business Angel, etc. etc. Mais vous exigez que le jeune investisseur avec qui vous allez investir ne prenne pas d'intérêt et ne donne pas d'intérêt.
Okay.
Et qu'il respecte la charia dans cette transaction. Et voilà, tout simplement, donc pour investir ou bien du crowdfunding immobilier charia compliant, aussi, ça se fait beaucoup. Et donc, oui, parce que le problème, c'est que l'une des causes qui fait que l'immobilier prend de la valeur, c'est que les gens, au lieu d'épargner leur épargne en cash, vu que le cash, ils n'ont pas confiance dans le cash, vu que le cash est manipulé par les institutions usuraires, vu qu'il y a usure et donc inflation qui touche ce cash, eh bien, les gens investissent dans l'immobilier. Donc, toutes les épargnes sont rabattues sur l'immobilier. Donc, dans l'immobilier, il y a une demande qui n'est pas réelle, qui n'est pas une demande pour consommer ou pour investir. C'est une demande de placement. Et cette demande de placement entraîne de l'inflation. Si aujourd'hui, tous les appartements qui étaient possédés par des individus étaient ouverts, les prix des loyers s'effondreraient, enfin, pas s'effondreraient, mais baisseraient de manière considérable. Et, encore une fois, l'une des choses qui fait que parce que là, on a une bureaucratie qui introduit cette inadéquation, le fait que l'offre et la demande ne se rencontrent pas dans l'immobilier. C'est le fait que dans certains pays, le locataire est surprotégé. Donc le propriétaire, il se dit, j'ai entendu des propriétaires dire non, moi je le laisse fermer plutôt que de le louer. Non. Pourquoi ? Parce qu'il sait que si quelqu'un rentre là-bas, tu le sors après 3 ans si tu et as une procédure. Voilà. Donc du coup, si on a un État qui veut que les prix des loyers baissent, l'une des premières mesures, c'est d'enlever la surprotection du locataire et de rendre tout en contrat. Et donc à partir de là, si le locataire veut se protéger en cas de situation difficile, il met un préavis. Préavis 6 mois, 1 an, 2 ans, c'est son affaire. 1 mois, c'est à lui de voir. Mais que ça soit du gré à gré. Et qu'une fois que la personne ne peut pas payer son loyer, on doit lui introduire au niveau de la communauté un filet social qui est le waqf, et la zakat. Donc quand on met ça en complémentarité, eh bien les prix des loyers, crois-moi, vont baisser.
Et règlent énormément de problèmes aussi.
Bien sûr.
C'est Mohamed, on va passer à une autre thématique. Les assurances, c'est Mohamed. Pourquoi est-ce que les assurances obligatoires ou facultatives islamiquement sont interdites?
Alors l'assurance, ça rejoint le deuxième volet, si tu te rappelles au début on a mentionné les trois au sol, le même nouaat fil mu'amalat, c'est le gharar. Et donc dans l'assurance on a du gharar, on a même un aspect meysir, voire on peut même avoir un aspect riba, parce qu'on donne un montant et on récupère un autre. Donc les assurances c'est un contrat où ce que vous donnez est certain, la prime d'assurance, et ce que vous recevez est incertain. Donc à partir de là il y a incertitude. Incertitude majeure, parce qu'il n'existe pas de contrat quasiment sur Terre où l'incertitude n'existe pas. Par exemple, quand vous achetez cette table, vous la voyez, mais si je vous demande l'épaisseur fait combien de millimètres, vous êtes incapable de me dire. Donc il y a une incertitude.
Le poids.
Mais elle est mineure, le poids aussi. Mais elle est mineure, parce que vous achetez une structure que vous voyez, vous testez, elle vous plaît bien, vous la touchez, vous l'achetez. Ça, c'est une incertitude mineure qui existe dans tous les contrats. Mais le problème, c'est l'incertitude qui est l'objet du contrat. Là, vous n'achetez pas la table pour une épaisseur qui fait 4 cm ou 5 et qui va changer votre décision. Non, parce qu'à vue d'œil, vous l'avez vu. Donc l'objet du contrat n'est pas l'épaisseur de 4 ou 5 cm. Par contre, dans le contrat de l'assurance, l'objet du contrat, c'est l'incertitude. C'est est-ce qu'il va arriver un accident? Est-ce qu'il va recevoir une prime ou pas? Et donc là, quand l'objet du contrat, c'est une incertitude, eh bien le contrat ne peut pas être accepté en islam.
Les assurances obligatoires, c'est Mohamed, est-ce qu'on a une fatwa le permettant? Véhicule
Oui, on a des fatwas qui permettent les assurances obligatoires en demandant de se limiter au strict minimum et en demandant d'essayer de trouver des alternatives type tsakaful ou mutuelle. Parce qu'il faut savoir que si on a le choix, par exemple, entre assurance obligatoire, mutuelle et tsakaful, on choisit le tsakaful. Mais si on a une configuration assurance obligatoire et mutuelle, mutuelle c'est un moindre mal. Parce qu'en général, c'est une caisse qui revient au sociétaire. Donc, ce n'est pas un contrat de vente, c'est un contrat d'entraide. Donc, on est à mi-chemin entre l'assurance interdite et le takaful. Et donc, si on a des mutuelles qui permettent de couvrir le véhicule, etc., etc., pour l'obligatoire, eh bien, il vaut mieux opter pour les mutuelles.
Et l'assurance takaful fonctionne comment ?
Takaful, tout simplement, la différence avec la mutuelle, c'est que les fonds ne sont investis que de manière conforme à la charia. Mmh. Et on veille à ce qu'il y ait une stricte séparation entre la propriété de la société gestionnaire et le fonds qui appartient aux cotisants. Qui revient aux cotisants de facto.
Et qui est redistribué aux cotisants.
S'il n'y a pas d'incident, bien entendu, ou qu'il leur est reporté par une avance sur la prime de l'année d'après.
Ok, barakallahu fik, Sidi Mohamed, une question qui apparaît encore beaucoup. Le fait de travailler dans des banques usuraires ou dans des sociétés qui ont pour objectif premier l'assurance. On en avait parlé.
L'imam Malik a été très clair sur ça. Le fait de faire une ijara dont l'objet c'est d'aider à quelque chose qui est illicite, par exemple pour construire un bâtiment illicite ou bien pour travailler dans une banque, etc. Si c'est une banque usuraire, bien sûr, ce n'est pas permis sur la base du verset. Donc il ne faut pas s'entraider. Et d'ailleurs, dans le concept de riba, on voit que c'est l'écosystème qui est sanctionné. La'anallah akil riba wa mukilahu wa mukilahu wa katibahu wa shahidihi wa hum sawa. Donc celui qui écrit, qui prend le riba, celui qui le donne, celui qui l'écrit, les témoins, donc tout l'écosystème en réalité. Et donc, comme dans l'alcool d'ailleurs, celui qui le presse, celui qui le vend, celui qui le boit, etc. Donc tout l'écosystème. Et donc à partir de là, l'entraide dans le mal n'est pas permise. Et alhamdoulilah, il n'y a pas que la banque dans la vie. Blacks, la banque c'est Epsilon, c'est pas Epsilon malheureusement dans ce système actuel, mais dans le monde des affaires, la banque c'est un type d'entreprise parmi des centaines au moins. Donc bien entendu, il y a d'autres débouchés possibles qui sont beaucoup plus halal.
Mais ceux qui travaillent déjà dans le milieu de la banque ou de l'assurance, quelle que soit la poste
qui... Moi, je vais vous poser une question. Si vous êtes informaticien dans une banque, ça vous paraît sans problème. Aujourd'hui, vous avez même beaucoup de parents, quand ils ont un banquier qui vient faire une khitba pour leur fille, ils sont presque contents, voilà, etc., avec son costume, etc. Et si vous aviez un vendeur d'alcool qui venait ou un propriétaire de casino, vous lui mettrez la porte dans le nez. Et le problème, c'est que le banquier, c'est pire. Riba, c'est pire que had les péchés. On rapporte de l'imam Malik qu'il a eu une question et il a médité pour cette question plusieurs heures, voire plusieurs jours, et il a dit, je n'ai pas trouvé dans le livre d'Allah quelque chose qui est pire que le riba. Donc, effectivement, on n'a aucun péché en islam qui implique harb min Allah wa rasouli en islam pour le musulman. Donc, effectivement, il faut faire attention. Et de toute façon, vraiment, je recommande aux gens qui sont intéressés par ce sujet, la playlist Riba est intéressante parce que ça répond à des choses qu'on ne peut pas résumer parfois. Parfois, trop vouloir simplifier, on tombe dans un simplisme qui trahit le sens.
Barakallahu fik, Assi Mohamed, on va encore prendre 3 ou 4 questions en direct et puis ensuite je te libérerai, bidnillahi ta'ala. Des questions qui me semblent intéressantes. Est-ce que la Dubai Financial Service Authority, DFSA, est un organisme fiable de contrôle pour les offres d'investissement sharia compatibles?
C'est un organisme, si c'est la Dubai Financial Service Authority, c'est l'équivalent de l'autorité des marchés des capitaux. Donc c'est l'organisme qui surveille les transactions financières. Ce n'est pas un organisme de certification sharia.
Ah, okay.
Donc c'est un organisme qui vous certifie que le titre de propriété financière que vous avez, c'est un titre qui est fiable. Donc d'un point de vue financier, oui, mais après, point de vue charia, c'est d'autres organismes qu'il faut... Ou peut-être qu'elle a un satellite qui travaille dans la charia, je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est que ça, c'est l'équivalent de la Securities Exchange Commission aux États-Unis. Donc c'est l'organisme qui veille sur la bourse, qui veille sur les transactions financières, etc. Donc d'un point de vue financier, bien sûr, c'est lui qui veille à ce que vous avez comme titre, ce que vous avez comme propriété, c'est réel. Maintenant... pour la charia, je ne pense pas que c'est dans sa prérogative.
Et l'organisme qui a cette prérogative-là,
au moins. Non, ça peut être un organisme public ou privé ou particulier, des savants, ça dépend.
Ça
dépend.
Ça va. Existe-t-il des ETF halal pour investir dessus?
Sur ça, je renverrai les auditeurs à ma vidéo qui fait 19 minutes, elle n'est pas très longue, qui s'appelle « Investissement halal au 21e siècle ». parce qu'il y a une petite distinction d'action, mais actuellement les ETF, je n'investirai pas dans les ETF qu'on appelle Sharia Compliant aujourd'hui, dans l'état actuel des choses. Et le détail est dans justement dans la vidéo.
Barakallahu fik, le plan d'épargne entreprise est-il permis?
Parce qu'il tolère une partie de riba jusqu'à 33%, tout simplement. Et ça, c'est pour le Majma' al-Fiqh al-Islami, ça pose problème.
33%
maximum. Dans le bilan. Dans le bilan.
Donc le plan d'épargne entreprise est-il permis? Et l'abondement?
Ça revient à la même vidéo.
Okay.
C'est-à-dire que la distinction entre les règles de la Wi-Fi et les règles de Majma' al-Fiqh al-Islami sur l'achat d'actions et de parts dans des sociétés. Et la règle de Majma' al-Fiqh al-Islami, c'est qu'à partir du moment où une société prend ou donne de l'intérêt, on n'est pas actionnaire.
Ok. On lève le bic.
C'est ça, parce qu'il y a une grande différence entre l'actionnaire et l'employé, par exemple. L'actionnaire, c'est en son nom que se donnent les intérêts et que se prennent les intérêts.
Donc, ben justement, là, j'ai une question qui peut être bénéfique. J'ai une société et souhaite faire un prêt de ma société envers moi-même. Je devrais rembourser plus tard avec un taux d'intérêt. Est-ce haram étant donné que c'est entre moi et ma société?
Sur ça, je préfère ne pas me prononcer parce que c'est un sujet que j'ai discuté avec plusieurs personnes. J'attends qu'ils soient un peu plus matures dans mon esprit.
Barakallahu fik.
De toute façon, les questions auxquelles j'ai répondu jusqu'à aujourd'hui, enfin jusqu'à l'instant, ce sont en général des questions sur lesquelles il y a des fatwas. Moi, ce que je fais, c'est que je vous rapporte les fatwas que j'ai étudiées. Ce n'est pas un avis personnel.
Mais des fatwas que tu partages ou tu ramènes juste la fatwa même si
Non. Ce sont des fatwas que j'ai quand même triées.
Que tu valides.
Donc, ce sont des avis qui existent. Donc, ces questions-là, en général, on peut dire que pour la très grande majorité, ce sont des thèmes qui ont déjà été étudiés par les savants. Et donc, j'essaie de vous apporter les avis des savants sur ces questions.
Encore deux questions à Sidi Mohamed et je te libère bi'idhnillah ta'ala. J'ai une société et nous donnons chaque mois un pourcentage supérieur à 2,5% à une œuvre caritative. Est-ce que cette aumône peut être considérée comme zakat al-mal?
Pourcentage de quoi? De l'assiette de zakat?
Eux donnent 2,5%.
De quoi?
Un montant supérieur à une œuvre. Ouais, c'est vrai qu'il ne spécifie pas.
En tout cas, si c'est à l'assiette de la zakat, l'association caritative, pas systématiquement. C'est-à-dire que la zakat doit aller aux pauvres. Elle doit aller aux pauvres. Donc si association caritative il y a, c'est juste un mandataire qui va prendre l'argent et le donner aux pauvres. Mais un mandataire qui va creuser des puits, peindre des bâtiments, etc., إنما الصدقات للفقراء وقال العلماء لم للتمليك donc لي c'est une propriété donc il faut lui remettre à ce pauvre ou bien lui remettre via un wakil un mandataire et cette zakat doit lui parvenir ensuite lui s'il décide d'en faire une formation de la manger d'acheter des habits de louer c'est son affaire mais il faut lui faire parvenir cette zakat telle qu'elle est. Après, si l'association vous certifie, vous montre qu'effectivement, elle prend votre argent, elle le donne aux personnes qui sont triées, elle a fait son job.
Ok. Dernière question.
Les associations, en général, ce qu'elles font, c'est qu'elles ont plusieurs sources de fonds. Les cadeaux, les donations, les subventions et la zakat. En général, la zakat, ils ne la touchent pas. Ils la prennent telle qu'elle et ils l'acheminent aux pauvres. Et tout ce qui est frais administratifs, etc., ils piochent dans les donations, les cadeaux, les subventions, etc.
Donc, ils font la part des choses entre zakat et donation.
Celles qui font la part des choses. Elles devraient le faire.
Wakha Sidi Mohamed, Allah ybarak fik. Dernière question, c'est par rapport à l'achat de l'or et de l'argent. Alors, on sait que l'achat ou la vente doit se faire de main à main. Est-ce que acheter de l'or et l'argent en payant avec sa carte de banque, c'est considéré comme main à main, en sachant
si la carte elle est alimentée et que le paiement se fait de manière imminente, c'est comme s'il a payé votre argent en fait.
La question c'est justement, c'est Mohamed, c'est que souvent on fait des achats, mais ils ne nous sont facturés ou portés en compte que le lendemain ou le jour d'après.
Non, il faut que ça soit un paiement instantané.
On doit avoir la certitude
que
ça doit être de l'instantané.
C'est un paiement instantané. Il faut que ça soit instantané. L'or et l'argent, c'est très restreint, il y a des règles.
Non. Ah, tiens, tiens.
Et donc voilà, et donc il faut dans un hadith on a riba illa hawa. Riba illa hawa. Donc si on ne fait pas de main à main, on risque de tomber dans riba nasa,
Ok,
le riba de décalage.
je te donne un exemple. J'achète de l'or samedi, je paye avec ma carte samedi, mais la transaction ne va être validée et portée à mon compte que le lundi. Le taux a peut-être changé entre le samedi et le lundi, je pense.
Alors, disons que aujourd'hui, les savants, que ce soit la Wifi, Majma' al-Fiqh l'islamique, considèrent que le qayd al-masrafi, qabd,
L'inscription.
c'est-à-dire le fait que l'argent est retiré de votre compte
Et porter à...
et porté, même de manière non visible dans le compte du vendeur, c'est un qabd. Par contre, il n'autorise pas à réutiliser la contrepartie avant que le qabd se fasse clairement, qu'on voit
C'est
le.
officiel.
Voilà, exactement. Donc, mais le mieux pour éviter ça, c'est de faire quelque chose qui est instantané. Aujourd'hui, les applications permettent
En
des paiements
instantané, là.
instantanés, donc ce n'est plus un problème. C'était un problème quand le qayd al-masrafi, c'est. Aujourd'hui, ça va devenir quelque chose du passé. Aujourd'hui, c'est l'instantané.
C'est dans la seconde près.
Voilà, exactement.
Barakallahu fika, Sidi Mohamed.
Fikabarak.
Jazakallahu khaira. C'était
Wayak.
vraiment un plaisir
Wayak.
que de t'avoir, que de
Bien sûr,
t'écouter.
on précise toujours Wallahu a'lam,
Wallahu a'lam, bien
et que
sûr.
nous, on rapporte les avis des savants et qu'on encourage toujours les gens à faire de la recherche par rapport au sujet qui les intéresse.
Justement, Sidi Mohamed,
Et de revenir à un savant.
l'idée c'était que tu parles directement au public en quelques secondes, comme on l'avait fait la fois passée juste derrière moi, leur donner un petit conseil par rapport justement à toutes ces questions qui ont été posées, la finance, l'économie islamique.
Effectivement, en tout cas, c'est une très bonne idée. Et aujourd'hui, dans les entreprises, je le dis souvent, on a des gens dans toutes les compétences, financières, logistiques, juridiques, ressources humaines, marketing, achat, vente, etc. Mais on manque enfin, on n'a pas quelqu'un qui vérifie les transactions. Et ça devrait devenir une habitude. Chaque musulman, chef d'entreprise, devrait s'accompagner d'un savant, comme disait le faqih Ibn Nujaym al-Hanafi. Les commerçants, quand ils voyageaient, avaient l'habitude de prendre avec eux un savant. Avaient l'habitude de prendre avec eux un savant. Pourquoi? Pour les aider justement dans les transactions et dans le halal et le haram. Et donc ça devrait devenir une habitude. Toujours avoir dans son téléphone le numéro d'un savant ou de deux savants ou de trois savants et de s'entourer de personnes qui sont compétentes dans ce domaine et également se renseigner, se cultiver, apprendre soi-même dans ce domaine pour faire l'ilmu qabla l'amal.
Barakallahu fika, Sidi Mohamed, Allah
Fik
jazik bil
barak.
khir. Tu t'es présenté en début de podcast comme étant un talib l'ilm, donc un chercheur dans le domaine de l'économie et la finance islamique.
C'est ça.
En plus de cela, tu es bilingue au minimum, peut-être même trilingue. Donc tu as un apport pour nous, les musulmans européens francophones, inimaginable. J'implore Allah Azza wa Jalla de faire en sorte que ce travail de recherche, ce temps que tu sacrifies pour répondre à toutes nos questions et qu'il soit pour toi un argument yawm al-qiyamah, et pour que ton passage auprès de lui se fasse de la manière la plus rapide, la plus bienveillante et la plus miséricordieuse possible.
Amin.
Ya Rabbal Alamin.
Amin.
Alors vous, cher public, je
Vous dites
m'excuse.
Amin aussi.
Amin, bien sûr. L'équipe technique, Amin, on n'a rien entendu. Donc vous, cher public, Allah yahfadhkoum, de un, soyez indulgents envers nous. On a eu des dizaines, si pas des centaines de questions. On ne pouvait pas répondre à toutes les questions et toutes les questions étaient aussi importantes les unes que les autres. Alors je vous renvoie vers la chaîne YouTube de Cheikh Mohamed Talal Lahlou, le docteur Mohamed Talal Lahlou, où il y a des dizaines de vidéos en langue française et même souvent des vidéos très courtes, mais très bien expliquées, même vulgarisées, qui pourront peut-être répondre à toutes vos questions. Une dernière chose, ceux qui voudraient revoir le podcast numéro 1 qui avait été tourné avec le docteur Mohamed Talal Lahlou, il est disponible sur la plateforme d'Arifton et il est même depuis quelques jours disponible sur la page YouTube du docteur Mohamed Talal Lahlou. Barakallahu fikum, jazakumullahu khaira, hafidhakumullah wa ra'akum et j'espère à très 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 bientôt pour un nouvel podcast en tête à tête et pour nos fameux podcasts live. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.
Sidi Mohamed, 1h43.
Je t'ai dit 1h15.
J'ai tiré comme tu peux pas imaginer.
Allah jazak bil khair.